bonsoir tout le monde et bienvenue au 15e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Dairy Queen. Les deux partagent les mêmes initiales, mais laissent un goût très très différent en bouche. Bonsoir les gars.
Oui, on dirait que je l'attendais celle-là. C'est longtemps que j'y pensais, je suis comme, un jour on va y arriver.
J'espère que t'es fier. Je suis Mathieu Bonin, toujours en compagnie de Danny Gravel.
Salut.
Et de Jean-François Laporte.
Salut, salut.
Comment ça va les gars?
Ça va?
Super. Ben, je suis toujours... Désolé de vous poser la question, c'est tellement plate les réponses. Hein? Mais qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Danny, vas-y donc.
À part manquer de courant. Là.
Ben, ça compte.
Ça ben, compte. C'est quand même sur une courte période. Là. Je suis allé voir Deadpool cette semaine.
Hey!
Puis dans mes notes, c'est marqué comme Deadpool tout en majuscule avec comme 8 points d'exclamation. J'en parlerai pas plus que ça là, parce qu'on est quand même tôt dans la vie de ce film.
Puis je vais le voir demain.
Voilà. Puis si je te le spoil là, ça se peut que je ressorte pas vivant. Donc, mais calvaire que j'ai eu du fun. Et je pèse mes mots. Non, sérieusement, si vous êtes fan de comique ou si vous êtes fan comme d'humour, un tantinet vulgaire, de violence tellement abusive que ça en devient comique.
J'espère qu'ils sont fans d'humour un peu vulgaire parce que sinon, pourquoi qu'ils nous écoutent?
Donc, même public cible. fait que mettez le podcast sur pause, allez sur un site de cinéma, là, achetez vos billets, puis revenez après. Sinon, côté gaming, je me suis pogné il y a presque deux semaines maintenant Mario & Luigi Superstar Saga au Game Boy Advance au magasin GameX à Saint-Jérôme. Sérieux, shout-out au magasin. Sérieux, bon service. J'ai beaucoup aimé ça aller là. C'est super agréable. Le gars connaît son affaire puis tu vois qu'il aime ça puis il fait ça parce qu'il aime ça. Donc, c'est certain que si je repasse dans le coin, wink wink à Guillaume, c'est clair que je vais retourner faire un petit tour parce que c'est une belle place. Fait que j'ai joué un petit peu à ça. Sinon, continuer mes games déjà commencés. Là, continuer mon Pokémon X. Continuer un peu à jouer à Hearthstone. J'ai même recommencé un peu à jouer à WoW. Je dirais que ces temps-ci, j'ai plus besoin d'être relax que de gamer. Donc, ça ressemble à ça. Sinon, dans le monde des internets.
Je prendrais, excuse-moi de t'interrompre.
Mais vas-y.
Je prendrais ta réaction. Le plus gros groupe de raid de WoW qui a quitté la profession aujourd'hui, on a appris.
J'ai comme tellement pas suivi, moi, les Race to World First que ça me.
Ok, rien à chier, c'est bon.
J'aime le jeu, j'aime le raiding, mais les espèces de courses pour finir premier, genre, ça m'a jamais comme accroché. Fait que je trouve ça comme des nouvelles semi-intéressantes de suivre, qui c'est qui se rend, mais les teams qui ont éclaté en drama à la fin de l'autre saison ou les teams qui décident d'accrocher leur keyboard. Ça me. Bon, tu sais, il y en a d'autres qui vont jouer.
Mais c'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris leur retraite finalement de World of Warcraft.
Bon, tu sais, ils ont probablement qu'ils vont mettre dans d'autres teams, puis je sais pas où, gars. Mais c'est ça. Mais non, c'est à peu près ça ma réaction. Sinon, comme je disais, là, dans l'univers des internets, j'ai découvert la page Facebook, les commentaires du Journal de Montréal. si vous connaissez pas, là, sérieusement, là, on le sait, là, c'est jamais une bonne idée d'aller lire les commentaires sur le Journal de Montréal.
On en parlait justement ensemble cette semaine avec l'histoire de Mike Ward.
Ouais, ça, c'était encore une meilleure idée de pas y aller. mais cette page Facebook-là ressort vraiment les... meilleur, là. c'est juste n'importe quoi, puis ça fait du bien, parce que ça pointe vraiment la stupidité que tu peux avoir là-dessus. J'en ai sorti quelques-uns pour illustrer mon propos.
c'est vraiment de la merde, c'est désagréable, c'est pathétique. On va vous en partager quelques-uns,
oui, voilà.
Chers auditeurs.
Mais, c'est mon nouveau segment, ça?
Oui, c'est mon nouveau segment. Non, quand même pas, là. Mais en même temps, qui sait? Comprenez qu'on n'a pas sur cette page-là le contexte, l'article. On ne sait même pas qui a écrit l'article sur lequel le commentaire. Il y a juste un screenshot du commentaire avec des fois le nom de la personne, puis ça rajoute à ce qui est drôle. Là. Donc ici, on dit « Nous, quand on allait à l'école, le prof nous sautait dessus et nous calmait par une bonne gifle et nos parents nous en donnaient une à la maison. Mais aujourd'hui, on n'a aucun droit pour arrêter ce genre d'incident. Revenons à permettre le châtiment corporel dans les écoles et on aura beaucoup moins de problèmes de TDEH. Voici une solution qui est peu coûteuse. » Puis là, ben, je vous fais grâce des fautes d'orthographe là-dedans. Puis moi, dans le domaine de la pédagogie, je cherche encore le E de TDEH. Je veux dire quoi? Là, je voulais faire un gag, mais je n'ai même pas trouvé qu'est-ce que je... Voilà. un autre commentaire. Là,
Je pense que c'est pour échymose, quelque chose comme ça.
Oui, le trouble de décès d'échymose. Tu frappes pour donner les nouvelles échymoses. Jocelyn Souverain, là, qui a son image de profil, c'est Je suis Charlie avec un X dessus, là, qui dit une autre loi pour contrôler les moutruches qui dorment.
Moutruche!
Je cherche encore ce qu'est une moutruche.
Ben là, c'est évident, puis je la trouve. Je ne l'ai pas, celle-là. Un mouton autruche.
Ah, okay.
Un suiveur avec la tête dans le sol.
Ok, c'est
un drôle.
Je l'avais pas pogné.
Une moutruche.
Il y a un Matt ici, je sais pas si c'est toi. Là.
Non.
Qui dit la raison pourquoi les gens envoient la neige dans la rue est pour pas que la petite roche soit pognée dans le gazon. Ça se ramasse mieux avec un balai sur l'asphalte qu'avec un râteau dans le gazon encore mouillé. Je suis quand même content que ça marqué asphalte et non pas asphalte.
Ben, t'as déjà vu mon gazon ici en avant là.
Mon ami a l'air de, il y a plus d'asphalte. Je pense qu'il y a plus de garnottes dans mon gazon que dans mon entrée finalement. Puis je finis par la personne que son compte s'appelle Il faut un paysanne, qui dit elle est très quétaine comme son ex des vraies campagnardes. Je sais pas de quoi ça parlait, mais ça m'a fait rire. Ouais, donc, les commentaires du Journal de Montréal, pour vrai, petite découverte pour un peu d'humour qui est pas voulu, mettons.
Monsieur Justin J.P. Trudeau.
Just watch me.
Donc, une petite mise à jour dans le Trudeau Watch, 14 promesses de tenue. La nouvelle, mettons, une des promesses là, que j'ai remarquées, qui était de remettre en fonction le programme fédéral de santé intérimaire. C'est un programme qui est offert temporairement aux réfugiés qui n'ont pas accès aux programmes provinciaux de santé. Ben oui, hein, belle logique d'avoir aboli ça. T'es un réfugié, t'as pas de maudite scène, tu quittes ton pays pour faire des conditions qui n'ont pas de bon sens, mais si t'es malade rentre au Canada, ben crève, hein, c'est pas mon problème. Fait qu'on dit bravo à notre nouveau PM d'avoir aboli cette idée de merde d'abolir ce problème-là, abolir l'abolition, en tout cas, d'avoir remis ça en fonction. Sinon, 4 promesses de briser. La promesse qui était de dans le fond, il avait promis que le déficit serait pas plus gros que 10 milliards, là, puis il a annoncé que le déficit serait probablement pas mal plus gros que ça. Bon, rendu là, on pourrait aussi discuter du comment, du pourquoi, mais...
On pourrait aussi pas le faire.
Voilà. Voilà. Voilà pour moi.
Ben moi, encore une fois, il me semble que j'ai pas fait grand-chose que je peux vous compter par rapport au gaming, mais dans notre merveilleuse saga...
Si tu regardes mon segment, ouais, de moins en moins de gaming, de plus en plus de n'importe quoi.
Mais en fait, je dois relever, on a apporté à mon attention une punition dirigée à moi-même, fait que sifflez, s'il vous plaît. Fait plaisir, Guillaume. Par rapport à mon segment sur Ease, The Out in Fergana, que j'ai fait dans le dernier épisode, je relevais, j'ai pas pris l'extrait, trop paresseux, je relevais que le jeu s'appelait Ease, était prononcé Ease, mais je disais qu'on l'avait entendu dans Ease Origin. Mais on m'a relevé, un fan de Ease avec qui je travaille, a relevé que dans le jeu Ease Book 1 and 2 sur TurboGrafx CD, on entendait dans la séquence intro l'extrait suivant.
Ease, the ideal utopia.
Fait que ça fait longtemps qu'on a entendu que le jeu était prononcé Ease, mais ma question demeure, si un extrait audio vient d'une console que personne n'a joué, est-ce qu'il a vraiment été entendu? Et c'est un peu un paraphrase d'un arbre dans la forêt. Fait que voilà, j'ai fait mon mea culpa, punition méritée. À part de ça, on est tous, moi et Danny, sommes encore l'anodois. Et à la date de cet enregistrement, l'électricité est revenue chez moi ce matin à 11h. D'où le délai dans notre enregistrement. Ça change absolument rien pour vous autres, parce que l'épisode sort lundi anyway. Mais on a été obligé de repousser notre enregistrement parce que, fuck, il n'y a pas de courant.
On a essayé de mettre des pédales, là, puis de pédaler, de faire le dynamo, mais...
Ben, la prise de son a été un petit peu bizarre. Mais c'est ça, fait que pendant cette...
c'est le mouvement qui est malheureusement, personne n'a vu, qui valait la peine.
Alors, pendant la panne de courant, j'ai un petit iCade, une petite borne d'arcade dans laquelle on peut mettre un iPad, que je venais de réinstaller avec tous les jeux MAME supportés par la version de MAME disponible pour l'iPad. Donc, dans le noir, seul, à la lumière d'une flashlight, j'ai décidé de... Oui, non, c'est pas ça que j'ai fait. J'ai décidé de jouer à quelques jeux d'arcade classiques, donc une petite run de Pac-Man.
Donc, tu sais jouer avec le joystick?
Je me suis joué avec le joystick. Tu peux le refaire, c'est correct, vas-y. Merci. Fait que j'ai joué à Donkey Kong. Tu finis? J'ai joué à Donkey Kong, j'ai joué à Miss Pac-Man. C'est ça. Un peu de old school classics. Puis après une demi-heure, je me suis tanné, puis je suis allé prendre une bière à l'Albion. Hey!
Je me suis toujours demandé, puis tiens, je vais assumer mon innocence, là. Différence entre Pac-Man, Miss Pac-Man, à part la petite boucle?
Sérieusement, je joue. Parce que le jeu est significativement différent, là. Les ordres des tableaux n'est pas pareil. Il y a différents tableaux. Le power-up que tu peux ramasser, le fruit, il se déplace.
OK.
Fait qu'il y a des différences très, très importantes. C'est vraiment un upgrade sur Pac-Man.
Puis il semblerait que le deuxième Pac-Man, qui est Miss Pac-Man, a été marketé en Miss Pac-Man parce que le public qui jouait le plus à Pac-Man, selon les sondages, à l'époque, étaient des femmes.
Ben, hein?
Hein, hein?
The more you know.
Hein?
Voilà. Puis toi et Jeff, qu'est-ce que t'as fait?
Mais écoute, semaine? Moi j'ai joué à des jeux quand même.
Ah,
j'ai eu cette chance, oui. j'ai joué au prototype de Indivisible. Mm-hmm. Qui était disponible sur PlayStation, en fait. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, Indivisible, c'est le jeu des développeurs de Skullgirls, qui était un petit fighting game.
Le prototype était disponible sur PlayStation?
Sur PlayStation et sur PC aussi. Mm-hmm. Donc, c'est les développeurs de Skullgirls, qui est un fighting game avec un artwork fou en 2D. Là, c'est, fait que si on regarde le même principe de artwork, là, tout fait à la main, qui est vraiment particulier, c'est vraiment bien fait. Le jeu, c'est un mix entre Valkyrie Profile puis Metroid. Donc, c'est un petit peu Metroidvania, mais avec le système de combat avec Valkyrie Profile, on a plusieurs personnages, puis chacun des boutons actifs
sur le personnage. Donc, RPG, plateforme, exploration.
Exactement. Ce qui est intéressant, juste, c'est qu'il y a une soundtrack qui est faite par Hiroki Kikuta, qui est reconnu, entre autres, pour son travail sur la série Secret of Mana. Donc, ceux qui ont les amateurs de Secret of Mana devraient reconnaître le style un petit peu. C'est la musique qui nous suit, qui nous accompagne à travers le jeu. Le prototype est super cool. C'est pas complet. C'est vraiment un prototype qui a été mis en ligne en même temps que leur campagne Indiegogo, en fait, là, qui s'est terminée au mois de décembre. Le jeu semble super prometteur. Ils ont une sortie estimée en 2018, mais vous pouvez déjà l'essayer si vous voulez. Si vous voulez vous donner un avant-goût de quoi le jeu va avoir de l'air, c'est gratuit. PlayStation 4 ou sur PC. Indivisible Prototype, c'est comme ça que ça s'appelle.
Je fais plus ça, essayer des jeux qui ont l'air vraiment cool, qui sont pas finis, parce que ça me fait de la peine quand je fais comme ah, je veux continuer.
Mais c'est pas comme un early access, c'est ce qu'on joue, ça sera pas dans le jeu, c'est juste un prototype, de, okay. Juste un exemple des mécaniques.
Pas comme fucking Crosscode.
Je m'excuse de t'avoir fait aimer
Crosscode. C'est correct, ça me fait juste comme donner le goût d'attendre qu'il sorte, puis je vais tellement
jouer.
Sinon, c'était le retour de la bêta de Division. Qui était la open beta cette fois, sur lequel j'ai pas mis beaucoup de temps parce que c'était exactement le même contenu que la dernière fois. Donc, j'ai mis peut-être 2 heures juste pour le plaisir d'y retourner.
Quand
un petit peu.
J'ai vu beaucoup de gags sur Reddit, dans les webcomics cette semaine sur
par rapport
sur
à Division. J'ai vu Penny Arcade qui a fait un gag qui était vraiment, vraiment drôle où il disait je vois pourquoi c'est pertinent de pouvoir customiser tes knee pads et tes elbow pads. Il dit moi, je ferais pas ça. Moi, je mettrais plutôt des spolders puis des caps puis un casque. Puis là, il dessine. Puis là, l'autre fait hey, on dirait un personnage de Destiny. Dit, ah ouais?
Oh.
Sinon, j'ai écouté la deuxième saison d'un podcast qui s'appelle Serial ou Serial. Shigma, tu étais avec toi aussi la première saison.
Oui.
Que j'avais écouté pour le 2 ans que ça avait sorti, je pense, la première saison.
Right.
Et depuis le mois de janvier, la saison 2 est en ligne. En fait, c'est différent de ce que nous on fait, dans le sens que
dans le sens où c'est de la qualité.
Non, mais dans le format est très, très, très différent.
Ça laisse pas le même goût en bouche.
Non plus. Donc, c'est fait par une journaliste qui s'appelle Sarah Koenig. Et Serial, c'est une histoire épisodique racontée en série, d'épisode en épisode. Donc, c'est la même histoire à travers toute la saison qui est racontée. C'est des épisodes d'environ 45 minutes. Dans la première saison, en fait, elle revient sur un meurtre qui a été commis en 15-16 ans. Donc, un adolescent qui aurait tué sa copine à l'époque. Puis, en fait, ce qu'elle va revivre, elle va retourner interroger les gens, puis elle va... De par ses actions, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle a réussi à faire réouvrir le cas. Puis il y avait des choses qui avaient été mises de côté. Peut-être que le plaidoyer de la défense n'était pas assez solide, puis il n'avait pas fait le tour de toutes les preuves. Donc, le cas est présentement, aujourd'hui, dans cette semaine, en cours réouvert pour évaluer si on ne peut pas revenir pour évaluer les preuves qui avaient été mises de côté à l'époque. Donc, c'est super intéressant. Saison 2, après une histoire totalement différente, on parle d'un cas qui est encore d'actualité, c'est un soldat américain qui a été fait prisonnier en Afghanistan pendant 5 ans, qui a réussi à s'échapper. Non, il s'est pas échappé, il a été échangé, en fait, par l'administration Obama. Et là, à son retour, il va être court-martial, il va être traîné en cour martiale, en fait, pour désertion, parce qu'il juge qu'il n'avait pas quitté son poste comme il l'avait fait, ce qui a mené à sa capture. Donc là, il y a tout un scandale qui entoure ça. Puis elle se jette dans ça jusqu'à téléphoner elle-même en personne à ses geôliers, en fait, à ceux qui l'avaient fait prisonnier là-bas en Afghanistan, à l'aide d'un traducteur qui va parler en pachtou pour traduire entre les deux. Donc, on a vraiment un point de vue réelle de c'est quoi être un prisonnier finalement en Afghanistan. Fait que c'est un podcast super intéressant qui parle vraiment des. Qui fait réfléchir beaucoup. Puis qui donne un point de vue sur la justice, puis sur le...
T'as raison, ça n'a vraiment pas grand-chose en commun avec le nôtre.
J'allais juste dire, c'est loin de Mike Ward, tu vous écoutes.
mais c'est quand même le podcast qui a été le plus téléchargé en 2015 sur iTunes, qui a atteint je ne sais pas combien de millions de téléchargements, c'est incroyable. Fait que si vous cherchez quelque chose à écouter entre les épisodes de Divan Quest, Serial, c'est un excellent podcast à suivre.
On vous en jugerait pas trop durement de l'écouter à la place non plus.
Sinon, il y a quelques sorties à venir intéressantes. 1er mars, sur PC, la version PC en fait, de Far Cry Primal, qui est, pour les fans de la série, le jeu semble super bien reçu par les critiques. Au niveau de la version qui est sortie sur console déjà. Pour un Far Cry sans véhicule, sans armes, sans dialogue, il paraît que c'est excellent.
Cool. Que, c'est noté.
C'est ça.
Est-ce que tu rides des Sabertooth Tiger à la place de des pick-up?
Genre? Oui.
C'est comme intéressant quand même.
Comme pour vrai, Chris? Ouais. Je me trouvais drôle. Ok, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sortie?
Sinon, autre sortie intéressante, le 8 mars sur Xbox One, PS4 et PC, de Division, évidemment. Ça fait déjà 3 fois que j'en parle. Le jeu sort enfin le 8 mars. Hitman, le 11 mars, la mouture la plus récente qui sort aussi sur toutes les plateformes. Et on me glisse à l'oreille ici une sortie qui semble être celle-ci exhaustive. La mère de Matt ferait une sortie quelconque qui serait disponible pour tout le monde.
Oh! Faut que vous soyez en Floride, par contre, présentement. C'est une snowbird. Alors, Kotaku nous apprenait que Kim Jong-un, le sympathique tyran psychopathe à la tête de la Corée du Nord. Garde-les pas loin, t'as pas l'affaire. Est un utilisateur d'ordinateur Mac.
Non.
Ben, j'ai rien ajouté. Ouais, sérieusement, l'histoire est toute là.
Eh ben.
Voilà. Alors, dans une nouvelle.
Il manque un bruit de criquet sur mon soundboard. Hein, ça...
Alors, dans une nouvelle créée à peu près sur mesure pour mes intérêts et ce segment, les Canadiens de Montréal ont fait une promotion pour fêter le plateau qu'ils venaient d'atteindre, c'est-à-dire celui du million de followers sur Twitter. Tout ce que vous aviez à faire pour participer était de tweeter hashtag CanadienMTL1M au compte des Canadiens et un bot, un programme automatisé, vous envoyait une réponse semi-personnalisée en deux parties. La première était un message préenregistré d'un joueur des Habs qui te remercie presque personnellement de les suivre sur Twitter. Quoique, honnêtement, ils devraient pas mal plus me remercier de suivre encore leur saison cette année.
Oh!
La deuxième partie, c'est une image d'un chandail des Canadiens, avec comme numéro 1M, pour 1 million, évidemment, et avec votre nom Twitter de cousu au-dessus, quel que soit le nom de votre compte Twitter.
Oh!
Et oui, il n'a pris que quelques minutes pour que les abus ne commencent.
C'est
le plus célèbre d'entre eux étant la contribution d'un certain hashtag Death on Niggers. Non, mais c'est correct, c'est pas raciste. C'est un 1 à place du I dans Niggers. C'est correct.
OK, ben oui.
Il y en avait beaucoup d'autres qui étaient beaucoup plus drôles et moins offensants à la fois, ce qui, je l'avoue, est pas très difficile dans ce cas-ci. En voici quelques-uns. On a at Go Leafs Go. On a at I Love ISIS. Et on a at G.W. Bush did 9/11. Ça a son charme. Maintenant que notre très cher Kojima vole de ses propres ailes, et le connaissant et son penchant pour l'excès, il doit s'agir d'une paire d'ailes équipées d'une demi-douzaine de rocket launchers et les plumes doivent être des couteaux. Mais il a décidé de faire équipe avec Sony. On avait passé par-dessus la nouvelle dans le dernier pod parce que, outre l'annonce elle-même, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Mais maintenant, Kojima a pris la peine dans une entrevue avec GameSpot de nous en dire un peu plus. C'est pas tellement intéressant honnêtement comme entrevue, mais Kotaku a relevé une liste de points qui est beaucoup plus appropriée à notre déficit d'attention généralisé. Voici le résumé de la liste. 1. Le nouveau jeu est gros et offre beaucoup de liberté. Pas tellement surprenant après Metal Gear Solid 5. 2. Il affirme toujours respecter les budgets de ses jeux, contrairement à la rumeur qui dit que ses projets s'étirent et débordent en temps et en budget. Ah bon, on va le croire. 3. Son jeu pourrait évoluer et devenir une série animée. Bon, on a toujours su qu'à la quantité et à la durée des cutscenes, des cinématiques dans ces jeux, on était toujours un petit peu à deux doigts de faire un film. 4. Sony n'essaie pas de contrôler Kojima. Je pense que même s'il fouettait et le gardait en cage, il se trouverait quand même mieux traité que chez Konami de toute façon. 5. Et les enfants de Kojima détestent sa barbe. Ah, quoi de mieux qu'une anecdote familiale sympathique pour le rendre plus attachant. Fait que, bien, merci à Kojima-san pour cette entrevue très, très éclairante.
Écoute, entrevue de fond, on
l'appelle. Ouais, c'est du filler. le 15 février dernier, la télévision d'État iranienne a présenté une vidéo prétendant montrer une caméra style GoPro d'un tireur d'élite embusqué tuant 6 combattants de ISIS ou du Daesh, comme vous voulez en parler, en moins de 2 minutes. La vidéo a ensuite été reprise par d'autres chaînes en Iran et en Arabie Saoudite et bien sûr distribuée rapidement sur les internets. Il s'avère finalement que la vidéo est un canular, me donnant la chance de dire le mot canular, ce qui n'arrive quand même pas souvent, puisque moi je penche habituellement plutôt vers des expressions du genre c'est fake ça, ou c'est clair que c'est de la merde ça, ou c'est un article de santé nutrition.org ça. Alors, canular. Oui. La vidéo, en fait, n'est qu'un extrait de quelqu'un en train de jouer au jeu Medal of Honor, sorti en 2010, publié par EA. Filmé à travers un téléphone, un peu tout croche, pour donner l'impression que c'est plus vrai. À première vue, il semble impressionnant que personne n'ait remarqué l'erreur plus tôt, vu l'omniprésence des jeux vidéo aujourd'hui. Mais il aurait probablement fallu que quelqu'un joue à Medal of Honor pour s'en rendre compte. Oh.
Donc, cette semaine, j'ai eu la chance, le plaisir, la joie de jouer. Oui, mais c'est un jeu qui est sorti la semaine dernière qui s'appelle Devil Daggers.
Je pensais qu'elle avait dit Gold Digger. Moi.
Mais non, mais non.
Avec les autres de rencontre.
On garde ça pour la semaine prochaine, peut-être, qui sait. Donc, Devil Daggers, qui est un jeu qui est développé par un petit développeur indépendant qui s'appelle Sorat et qui est disponible depuis le 18 février sur Steam. Fait divers, en démonologie, Sorat signifie le démon du soleil et de la délectation et qui serait plus puissant que Lucifer. Donc, ce qui donne ici le ton au jeu. En fait, ça peut vous donner une idée de quoi le jeu va parler. Exactement.
Voilà. C'est un jeu de puzzle. Ça.
Surtout les démons et la mort.
Un match clean.
Et puis tout. On parle ici d'un jeu qui est inspiré des FPS et des jeux d'arcade des années 90. Une sorte de mélange entre Quake et Geometry Wars, en fait. J'aime ça. Dans une arène circulaire avec un look gothique pour affronter des vagues infinies de démons armés de ladite Devil Dagger. Et on doit se battre pour survivre le plus longtemps possible. Je tiens à souligner ici « longtemps ». Dans l'univers de Devil Dagger, longtemps se résume à maximum, c'était vraiment bon, 1 minute. C'est particulièrement
That's what she said.
Oui, c'est correct. Je vais pas la contredire. Je sais pas ce qui se passe. Les bruits de démons. donc, le jeu semble super simple à première vue. WASD pour se déplacer, la souris pour viser, un seul bouton pour tirer. Donc, c'est pas compliqué, mais ça cache énormément de profondeur. Donc, les mouvements sont super fluides. On a la possibilité de faire des speed boosts, le bunny hopping, le fameux dagger jump, qui est l'équivalent d'un rocket jump, mais avec des daggers. Donc c'est qu'un équivalent d'un rocket jump, mais avec l'attaque là, avec de la Devil Dagger. La Devil Dagger qui permet 2 modes de tir, en fait. Un genre de tir rapide. Comme exactement, un tir rapide comme ça, comme un peu une mitraillette. Puis un genre de tir shotgun, en fait.
J'en ai pas.
Donc, les ennemis ont chacun un pattern différent qu'on doit apprendre. Il y a 13 types d'ennemis différents. Il y a certains ennemis qui vont dropper des gemmes rouges. Plus on ramasse de ces gemmes-là, plus on devient fort. Donc, nos dagues vont être peut-être chercheuses puis chercher les ennemis. On a de plus en plus de dagues, on fait de plus en plus de dégâts. On se déplace de plus en plus rapidement, vite. On saute de plus en plus haut. Donc, plus on en a.
De plus en plus rapidement, vite.
De plus en plus rapidement, vite.
Ça, c'est vite.
Exact. Puis on va pouvoir sauter de plus en plus haut, évidemment. Donc, on devient de plus en plus habile et fort, plus on a de gemmes. Et,
comme des gemmes sur Facebook, c'est ça?
Des likes. Gemmes rouges, là, comme un petit rubis. Là. Puis quand je dis que le jeu a quand même une profondeur cachée, c'est que les gemmes sont attirées vers le joueur si on ne tire pas. Là, on parle ici d'un Geometry Wars, fait que l'aréna est tout petite, il y a énormément d'ennemis. Donc, tirer en permanence, c'est notre réflexe, mais les gemmes vont être aspirées vers nous si on ne tire pas. Donc, il faut quand même faire un choix de quand est-ce que je dois juste me sauver ou m'arrêter pour que les gemmes me rattrapent, tout ça. Donc, il y a tout un côté stratégique qui vient supporter ce jeu-là. Et ce qui est super le fun, c'est que c'est possible de voir les best runs de tout le leaderboard. Donc, j'ai accès au leaderboard, je peux voir ma position, je peux voir les positions qui m'entourent, puis je peux voir le top 10. Et il y a un petit œil à côté de chacun des scores. On pèse sur l'œil, puis ça nous charge la partie, dans le fond, de ce score-là. Fait qu'on peut voir toujours notre meilleur run à nous, mais on peut aller voir le meilleur au monde présentement. C'est les deux tops, c'est encore 2 développeurs. Ils n'ont pas été battus encore. Mais on peut les voir jouer. Fait qu'on peut voir les trucs, on voit comment ils se déplacent, comment ils font les attaques spéciales, tout ça. Fait que c'est quand même intéressant. On peut apprendre un petit peu à travers ça parce qu'il n'y a aucun tutoriel là, au jeu.
Tu sais, ce qu'on voit beaucoup maintenant avec Twitch, les choses comme ça, que le monde font de toute façon pour apprendre à jouer, mais là, c'est direct dedans, pas de niaisage.
C'est drôle parce que la première fois que j'ai vu quelque chose comme ça, c'était dans un jeu. J'oublie le nom exact, mais c'est un des Tony Hawk au DS. Oh. Que tu peux aller voir les runs des autres au DS.
Au DS?
Yep.
Quand même.
Way back when, là, c'est pas d'hier. Là.
Tu fais faire le play. Le DS pouvait se connecter.
Yep. Mais c'est ça, c'est quand même une fonction secondaire d'aller sur le net avec le DS, puis pourtant, tu peux aller checker les playbacks des autres joueurs.
C'est quand même cool.
Ouais.
Tony Hawk, Devil Dagger, même combat.
puis au début, je ça va ouvrir la porte à des gags de That's What She Said, mais au début, je durais vraiment pas longtemps. Jusqu'à ce que j'aille regarder. Jusqu'à ce que j'ai regardé les autres le faire. J'ai pris des trucs, puis après ça, j'ai pu être meilleur.
Ça fait mal. Vas-y.
Au niveau visuel, le jeu a un look super particulier. C'est très, très 1990 avec un engin graphique custom qui recrée le style de rendering software de ces jeux-là, de Quake, des Doom, tout ça. Avec l'absence totale de filtre sur les textures, il n'y a aucun anti-aliasing. Il y a du polygon jitter. Fait que les murs bougent, ta main.
J'ai des flashbacks de Tomb Raider.
Qui changent de forme. Donc, c'est ce qui te caractérisait les jeux de l'époque, un peu comme Heretic ou Exen, ces choses-là. Mm-hmm. Ça donne un look incroyable. Le son, l'audio.
On est rendu là dans le buzz rétro. Hein?
On est rendu au point d'émuler les limitations de l'époque.
Ah, ben, on le faisait, mais avec du 8-bit. On est rendu PC 95. Là.
Ouais. C'est drôle.
Quand est-ce que le rétro va rattraper 2012?
Ben, ça sera.
En 2018.
À vitesse, ça va là, I guess.
Check ça, man, ce qu'on dirait du PS4.
Est-ce que c'est old school?
Les ennemis sont quand même intéressants, ça vient supporter le style. On a des crânes volants, des piliers tentaculaires, des gens de 1000 pattes qui volent aussi, des énormes beetles qui mangent tes gemmes si tu tues pas assez rapidement. Donc oui, Matt, avant que tu le dises, hashtag, c'est manger la gemme.
Fait plaisir.
donc on a vraiment le thème là, qui va avec les démons et tout ça. C'est un jeu qui est entièrement procédural, qui peut générer jusqu'à des centaines d'ennemis, puis ils ont tous du... positional awareness, ils vont tous s'éviter les uns les autres. Fait que quand tu t'essaies de te sauver des ennemis, c'est super fluide. T'as comme toutes les vagues de...
Un balai aérien
d'ennemis dont le seul but, c'est de te réduire en pulpe sanglante et juteuse.
Faim, là.
Le jeu, c'est un gros trip back dans les années 90, où la norme était de gamer sans souris. Le jeu, je joue ici avec une souris, mais on a quand même tout le reste de l'expérience. Ça semble être le thème du podcast aujourd'hui, là, retour aux années 90, vous allez voir. Mais ça, c'est une expérience incroyable qui se savoure à coups de 40-50 secondes à la fois. Devil Dagger, c'est un drôle d'animal, mais pour 5,49 sur Steam, c'est vraiment difficile de regretter son achat. Ça devient rapidement répétitif, surtout si on n'est pas très bon. On va peut-être se tanner d'échouer à toutes les 30 secondes. Mais je le recommande quand même, surtout à tout le monde qui se rappelle avec nostalgie les heures qu'on a passées sur Quake ou Doom dans le temps, ou à tous ceux qui aiment les challenges. Donc, essayer de survivre plus que 60 secondes dans l'arène, c'est déjà un grand défi. Donc, j'hésite même pas à donner à Devil Dagger 100% A+, 4 pattes de divan. Quoi dire de plus?
Donc aujourd'hui, dans l'univers des Divan Quest, 29 février. Shit! 4 fois moins de chances d'avoir des affaires qui soient passées. Stupide année bisextile. Quand même. 1940, premier Oscar pour une actrice noire, Hattie McDaniel. Pour autant en apporte le vent. 2016, Leonardo DiCaprio prend un rendez-vous avec un chirurgien pour sa chirurgie de réassignation sexuelle et ses traitements pour se faire foncer la peau. Donc, un gag de Léo, pas d'Oscar. Là. Fallait bien que j'en fasse un. Au niveau des naissances, 1860, naissance de Herman Ollerith, inventeur de la première machine à cartes perforées, fondateur aussi d'IBM par la suite. Sinon, 1936, naissance d'Henri Richard. Hey. J'ai toujours aimé dire son nom, Henri Richard. Ça se dit si bien. Sinon, rien de plus. J'ai décidé de vous jaser d'abord du statut légal des gens qui sont nés un 29 février un peu partout dans le monde. Là, puis... hey. C'est une blague. Là. Il y avait vraiment un paragraphe sur Wikipédia qui parlait de ça.
Ben, j'étais comme curieux parce que j'ai mes collègues qui est né le 29.
Ben, j'étais curieux, mais c'est soit que leur date officielle d'augmentation d'âge pour tel ou tel service, c'est le 28 ou c'est le premier. Fait que finalement, c'était super plate. j'ai comme eu la même réaction que toi, puis j'ai lu. Donc, non. Là,
ça... Pas de quoi en faire un segment.
Au niveau techno, quand même, par exemple, en 2012, 29 février 2012, début des commandes pour le Raspberry Pi. Pour ceux qui connaissent pas, bah, vous irez écouter La soirée est encore jeune, là, Olivier Niquette. Là. Sinon, 2016, début des commandes pour le HTC Vive, appareil de réalité virtuelle, là, pour ceux qui connaissent pas. Puis vous, les boys, est-ce que vous pensez le commander ou vous attendez de voir ce qui va se faire comme porn? Ou...
Non, oui.
Ah. Nui?
Nui. Niveau gaming, 1996, la sortie de Civilization 2. Hein, la légende dit que la première partie s'est terminée le 29 février suivant. Bon, 4 ans plus tard. Encore en 96, Doom au SNES. On parlait de Doom tantôt, c'est un beau petit clin d'œil. Sinon, en 2000, Star Wars Force Commander sur Windows.
Sac, c'est un jeu que personne ne se rappelle.
J'ai vu Star Wars. Ouais, Star Wars. Mais non, c'est effectivement pas un gros hit. Encore en 2000, Rayman 2 au Dreamcast. Sinon, Hot Shot Golf 2 au PlayStation. Hey. Dead or Alive 2 au Dreamcast. Puis Carmageddon au Game Boy Color. Finalement, ouais. Je pense que le 29 février, c'est la journée internationale des sequels.
Ou des ports de basse qualité.
Aussi. Puis je termine avec le ouch, ouch, gag là, des gens qui sont nés le 29 février là, qui disent que leur âge est comme le quart de leur âge réel. Là. Ouais. Ben, j'ai découvert que c'était utilisé comme des plot points dans au moins deux œuvres de fiction que j'ai remarquées. Oh et oui. God.
Que t'as remarqué.
Ben là, j'ai pas fait des recherches exhaustives. Mais un opéra comique qui s'appelle The Pirates of Penzance. Do what you want, cause a pirate
is free. You are a pirate. Enfin, j'en avais besoin. Ça.
Où le personnage de Frédéric est laissé comme apprenti à des pirates jusqu'à l'âge de 21 ans. Puis là, à 21 ans, il quitte pour se marier puis refaire sa vie. Mais là, les pirates se rendent compte que ça va être le 29 février. Fait que là, ils vont le rechercher. Puis il est obligé de rester avec eux autres jusqu'à 84 ans. mais sinon, ça a quand même été utilisé aussi.
Voyons, Jeff, ça va-tu?
Quel pirate plate.
Ça a été aussi utilisé dans une histoire de Sherlock Holmes.
Eh oui. Laquelle?
Je me rappelle pas le titre, là, mais c'est un ami du Dr. Watson devait recevoir un héritage pendant l'année de ses 84 ans. Puis cette année-là, c'est l'année 1900. Puis comme elle n'est pas bisextile, ben, je sais pas trop, le gouvernement en place refuse de lui donner son héritage. Fait que là, avec l'aide de Sherlock Holmes, dans le fond, il a faké sa propre mort pour que l'héritage passe à son petit-fils à lui. Plot twist. Ouais.
Sympathique.
Donc voilà, pour l'univers de Divan Quest d'un fucking 29 février. Blades of Steel.
Alors moi, cette semaine, pour aucune raison en particulier, j'ai décidé de vous parler d'un style de jeu que j'aime beaucoup, puis qui commence à gagner un peu en popularité, c'est-à-dire les jeux coopératifs asymétriques. Pour faire un bref survol, malgré que j'ai pas pensé à en faire vraiment une définition dans ce que j'ai écrit, mais un jeu coopératif asymétrique, c'est un jeu où on joue donc à plusieurs joueurs, soit en ligne, soit en local, et que chacun des joueurs a un rôle qui est très différent. Bon, c'est sûr que dans à travers certains exemples du genre, c'est pas forcément si différent, mais c'est ceux qui sont vraiment différents qui attirent mon attention. Où est-ce qu'on va jouer? On a l'impression de jouer à deux jeux différents ensemble, mais vers un but commun.
Ouais, tu parles pas, mettons, de jouer à deux jeux, qu'il y a un bonhomme qui est gros puis fort, puis l'autre qui est petit puis agile. Là,
non, c'est ça. Ça, c'est en fait, c'est juste des variables qui changent. C'est même pas de la symétrie. Mais il y a eu dans les jeux de société, il y a plusieurs années, on a eu comme un gain des jeux compétitifs.
C'est asymétrique au niveau des mécaniques.
Exact. C'est qu'on joue pas, on a vraiment pas l'impression de jouer au même jeu. Donc, notre expérience de jeu est différente. Donc, il n'y a pas une symétrie des options, des forces, etc. C'est ça, mais les jeux compétitifs dans les jeux de société, ça a été longtemps, depuis longtemps, une mécanique qui permet de créer une certaine variété puis d'être moins aliénant pour les joueurs dans le côté compétitif. Dans le côté coopératif, ça s'est pas particulièrement été utilisé dans les jeux de société non plus. Dans les jeux vidéo, depuis 2 ans environ, il y a vraiment comme un gros buzz de jeux compétitifs asymétriques avec des jeux comme Evolve, là, qui est le premier qui me vient à l'esprit comme ça, où est-ce que t'en as un qui joue un méchant, un gros Christy de monstre, tous les joueurs doivent se rallier contre, donc t'en as un qui joue contre tous les autres, qui est une expérience compétitive asymétrique. Mais les jeux coopératifs asymétriques, c'est très très différent à designer parce que c'est pas juste comme bon, on va remplacer le boss qui est un AI par un joueur, puis on va sacrer tous les autres joueurs ensemble dans le même job qu'il faisait avant contre lui. Donc ça change beaucoup comment il faut que soit approché. Puis c'est ça, c'est pas quelque chose qui date d'hier, peu importe ce qu'on en croit, malgré la rareté du genre.
Puis on a pas joué un jeu sur la défunte Ouya.
Quoi?
La Ouya?
Je connais pas.
En tout cas, sur ton divan. Bon, on a joué un jeu parce qu'il y avait, comme des... Il y avait jusqu'à 4 joueurs qui jouaient comme des espions dans un party. Puis là, fallait que tu... il y avait plein d'NPC. Puis il fallait que tu agis, que tu bouges de façon erratique comme les NPC pour te cacher dedans. Ouais. Ça, puis l'autre joueur jouait comme le sniper qui essayait de tuer les joueurs.
Ben ça, c'est un bel exemple de compétitif.
Ouais,
c'est ça. Ben oui. Puis c'est ça, souvent les expériences qu'on met le fun parce que c'est tellement varié. Puis pour des party games, c'est toujours très efficace. Mais dans le co-op, je vais vous en présenter quelques-uns. Le premier jeu coop asymétrique que moi j'ai joué, c'est un jeu d'arcade, Lucky and Wild. Dans mon petit Berthierville natal, lors de l'exposition agricole, il y avait toujours une petite arcade, une petite, petite roulotte là, qui avait genre des arcades dedans. Puis les jeux changeaient pas souvent d'une année à l'autre, donc Lucky and Wild était souvent du rendez-vous. Donc, dans Lucky and Wild, distribué en 1992 par Namco, le premier joueur conduit à l'aide d'un volant et de la main droite tire sur les ennemis avec un gun qui apparaissent devant la voiture. Le second joueur, ben lui, fait juste tirer. Je dirais qu'une version plus sympathique du jeu voit le second joueur tirer avec les deux guns et le premier conduire, ou à la limite jouer même à trois joueurs. Fait que c'était vraiment comme une... on remonte à 92, là, qu'on a déjà ça.
Mais pas... shout-out aux dires de tracteur de l'Expo Agricole.
Ou pas. pas un jeu entièrement coop asymétrique, mais dans Gunstar Heroes de Sega en 93, que beaucoup de gens connaissent, parce que c'est un classique de cette plateforme-là. Il y avait un tableau style shmup, un shoot'em up, là, où on joue un vaisseau dans l'espace, puis on se déplace dans toutes les directions.
Piu, 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 piu.
Voilà. Il y a un joueur qui contrôle le vaisseau principal dans l'espace, qui est responsable donc de la survie des deux joueurs, pendant que le deuxième joueur contrôle une petite tourelle sur le vaisseau qui aide à la défense du dit vaisseau. Donc on avait un tableau qui avait des mécaniques asymétriques comme ça. C'était rafraîchissant au travers du jeu, justement, d'avoir cette variante-là. Dans un exemple de quasi coop asymétrique, plus drôle que d'autres choses, honnêtement. Dans Mega Man 3 au NES, si un joueur prend la seconde manette et qu'il tient le bouton droit sur la manette, on peut booster le jump de Mega Man. Ça compte.
C'est participation.
Ça compte. Voilà. C'est un peu plate pour le deuxième joueur, mais ça compte.
Et plus récemment, Super Mario Galaxy, ouais, ça, en 2007, laisse un second joueur assister le premier en pointant avec la manette de la Wii pour ramasser des power-ups à l'écran et donne l'impression à la personne assise à côté de toi que vous jouez ensemble pendant que, dans le fond, tu veux juste jouer à Mario.
C'est un beau jeu pour faire jouer ton petit cousin qui est 5 ans et demi.
Mais il y avait aussi New Super Mario Wii U aussi, où un joueur fait jouer avec la manette normale, puis l'autre manette fait prendre le pan puis mettre des blocs pour t'aider à monter.
Ah,
ou
oui,
atteindre il y avait des étoiles que tu peux juste aller chercher si tu joues à deux. Comme ça.
Mais là, la manette de Wii U, elle ouvre la porte à beaucoup de ces mécaniques-là, en fait.
Ben justement, un peu plus tard, j'en ai un. On y arrive. En 2013, on a eu Artemis.
Oui.
Oh, on voit que Denis ne connaît pas Artemis.
Ça arrive souvent d'être celui qui ne connaît rien.
Bon, ça y est, on va pleurer encore. Fait qu'on serait pardonné de ne pas y penser quand on cherche les jeux coop asymétriques, parce que c'est probablement pas la caractéristique la plus évidente de cette expérience-là. Artemis, en fait, c'est un jeu qui se joue seulement en local. Donc, pas de multijoueur en ligne. Et chaque joueur incombe...
Sur PC
et il y a d'autres plateformes maintenant.
Oh.
Oui, j'y viens. Chaque joueur incarne le rôle d'un membre d'équipage sur le pont d'un vaisseau à la Star Trek. Le capitaine n'a aucun contrôle direct sur l'action. Il fait juste donner des ordres et prendre l'information des autres joueurs qui occupent les postes de navigation, les sondes, le pilotage, pour essayer de réussir la mission. Très, très peu standard comme jeu, mais également très asymétrique. Il est même disponible maintenant sur mobile, et il fonctionne entre les diverses plateformes. Donc, pas de racisme ici. On n'est pas sur le Twitter des Canadiens. Fait quoi, on peut jouer maintenant Android, iPhone, tout se plugger ensemble et jouer Artemis. Oui, on jouera Jeff.
C'était ma phase de quand?
L'an dernier, on a eu Clandestine.
C'est quoi ça?
J'y reviendrai peut-être tantôt. Oui. On a aussi eu droit à Keep Talking and Nobody Explodes. Qui est facilement un des exemples les plus fucky de coop asymétrique. Le jeu était designé pour jouer avec un casque de réalité virtuelle, la Rift, mais ça se joue très bien sans ça. Un joueur est devant une bombe générée procéduralement à partir de 14 modules différents qui est le seul à voir. Les autres joueurs ont le manuel de la bombe, en fait, qui est l'explication de chacun des modules, comment ils fonctionnent, puis qu'est-ce qu'ils font. Puis ils doivent communiquer avec le bombé, le joueur qui a la bombe, là, pour l'aider à comprendre comment la désarmer.
Je pense que tu parlais de la ville en Inde. Là.
Bombé. Non, je parlais du coach des Ducks.
Gordon Bombay, voilà.
Alors, aussi, en 2015, s'il vous plaît, un peu de rigueur, sur la Wii U, comme on a mentionné tantôt, il y avait Affordable Space Adventures, qui est écœurant. C'est vraiment bon. Ça ressemble un petit peu à... En fait, c'est un petit peu si Artemis avait été un jeu d'exploration en 2D plus traditionnel comme jeu. C'est une très mauvaise comparaison, mais on contrôle un vaisseau. Puis quand on joue à plusieurs joueurs, Le joueur qui a le gamepad va opérer tous les différents systèmes du vaisseau, tandis que les deux autres joueurs se partagent le pilotage et le scanner, qui est juste comme une espèce de faisceau devant le vaisseau. Très, très bon jeu. Très cool, puis un des meilleurs exemples d'utilisation du gamepad de la Wii U.
Moi, je trouve que c'est tellement un concept intéressant. Je trouve ça plate qu'il y en a pas. Ben, tu sais, il y en a quand même de Mickey X1, mais je trouve ça plate, c'est pas plus répandu. Tu sais, c'est le fun parce que ça donne de la rejouabilité. Là. Tu joues une fois une mécanique, la fois d'après, tu joues l'autre. C'est complètement différent comme expérience.
Mais souvent, c'est des jeux qui se font taper ses doigts, qui se font dire qu'ils n'ont pas assez de ils sont pas assez longs, en fait. Mais ouais, faut que tu considères qu'en théorie, tu dois jouer les deux côtés. Fait qu'il y a deux expériences complètes à designer. Mais souvent, c'est ça, ils se font critiquer d'être pas très long comme jeu. Puis finalement, en espérant que ce soit un signe que d'autres jeux aussi uniques soient à venir, en septembre dernier, Rockstar, qu'on connaît pour GTA, affichait de très nombreuses offres d'emploi pour travailler sur une expérience stealth coopérative asymétrique. Ce qui serait une des rares fois qu'un studio AAA approche les jeux asymétriques. Fait qu'on va vous tenir au courant de
ça. Mais dans tout ça, tu n'inclus pas Call of Duty, dans Modern Warfare, on avait les missions où on pouvait les faire asymétriques.
Il y a certaines missions ces jeux-là asymétriques, mais je pensais pas que c'était suffisant pour commencer à les compter là-dedans.
C'est quand même une des meilleures expériences de ces jeux-là.
Ben c'est ça, dans le cas de Modern Warfare 2, dans les Special Ops Missions, il y a des missions où est-ce que tu contrôles t'as un joueur qui est dans un hélicoptère au-dessus, puis l'autre est au sol, puis tu dois l'escorter. L'hélicoptère se contrôle tout seul, il est on rails, mais tu dois comme couvrir le joueur qui avance. C'est des tableaux très très cool. Pour celui qui est dans le vaisseau, ça fait comme un jeu d'arcade. T'sais. Mais de là à commencer à vanter Call of Duty comme un jeu asymétrique, j'irais peut-être pas jusque-là.
Mais c'est quand même un AAA qui a touché à ce style-là un petit peu.
Mais on a brièvement mentionné, tu parlais tantôt de Clandestine.
Ben oui.
Écoute,
alors,
hein?
Alors, c'est une première d'un nouveau segment. Le segment Tag Team, où deux des animateurs de Divan Quest vont parler d'un sujet. Moi et GF, on a joué à Clandestine la semaine dernière. Fait que Clandestine, ben, c'est un jeu. Hein? C'est le moins qu'on puisse dire.
Ben, minimalement.
Définitivement.
Et voilà. Développé et publié par Logic Artist, studio de développement indépendant danois, le 5 novembre 2015. On va faire tout de suite le tour de tout ce qui est histoire du jeu, puis après ça, on va parler plus de l'expérience de jeu parce que c'est là que ça se passe. Fais-nous une description du jeu, Jeff.
Ben oui, mais c'est un jeu coopératif asymétrique. Ha-ha! Quelle surprise!
Mon Dieu!
Pour deux joueurs, encore quelle surprise!
Ça,
je suis pas là.
On t'a pas invité, Danny.
Non, c'est bien.
Ta mère elle voulait pas.
C'est un jeu dans lequel il y a un des joueurs qui joue à un jeu de stealth et l'autre lui joue à un. Il apporte du support dans un jeu plus abstrait de piratage, de hacking. C'est un jeu qui peut jouer en solo, mais qui focus principalement sur la partie stealth. On peut alterner entre les deux rôles si on joue solo. Mais il y a clairement plus d'un grand face qui est mis sur la partie stealth du jeu si on joue tout seul. Mais c'est un jeu qui gagne toute sa fraîcheur et sa couleur si on le joue en coopération, effectivement.
Voilà. Pour ce qui est de l'histoire du jeu, on a noté une phrase en particulier qui revient à plusieurs fois, à plusieurs moments dans le jeu. Oui, Jeff?
Yeah, because we don't have time for that.
Et voilà. Parce que l'histoire est simpliste, est fonctionnelle, voilà, sans plus. Le jeu se déroule en 1996. Il y a vraiment une ambiance rétro, là, low-tech. Il y a même un moment où on peut voir un Quake dans le jeu, justement.
Sur un projecteur
dans un petit sous-sol avec des boîtes de pizza. Toutes les pièces ont des euro-moniteurs. Bon, les caméras sont en basse qualité, noir et blanc, etc. L'ambiance du jeu est, je crois, est volontairement cheesy. Bon, peut-être que ça ne l'est pas, mais les années 96, ça file un peu cheesy. Donc, ça se passe. Ils décrivent le jeu comme se passant 5 ans après la fin de la guerre froide. Des espions russes et américains se font assassiner. Un groupe s'organise pour investiguer. The Kingbridge Executive. C'est à peu près la profondeur du setting du jeu. Les deux personnages qu'on incarne dans le jeu, la partie stealth, on joue une espionne russe du nom de Katia Kozlova et le pirate du nom de Martin Szymborski.
C'est pas là de toute façon qui est le côté intéressant de l'expérience.
Il y a beaucoup de couleurs quand même dans la présentation du jeu, là, ne serait-ce que les niveaux de difficulté.
Oh, ouais, ben, où on a à chacune des missions, il y avait 7-8 missions là, en tout qu'on peut faire dans le jeu, qui suivent une à la suite de l'autre, il y a une histoire. Puis chacune des missions peut être faite à un certain niveau de difficulté où il va y avoir plus d'ennemis, où il va être plus ou moins létal. Et le premier niveau de difficulté, le easy mode, il s'appelle le Bond. Niveau de difficulté Bond. On a ensuite le normal qui est Born, le hard qui est Hunt et le insane qui est Léon. Voilà.
Donc, évidemment, en ayant deux rôles qui sont très, très, très différents. Donc, en ayant un joueur qui joue un jeu de stealth, d'un côté, ben, en fait, je vais te laisser l'expliquer vu que c'est toi qui as joué le personnage de Katia, donc l'espion.
Ouais, mais du côté du jeu stealth, on est très, très proche des Splinter Cell puis tous ces jeux-là. On a un personnage où, dans cette lignée-là où on n'est pas armé pour se battre. On peut avoir un pistolet. Mais c'est vraiment pas là que la mécanique va se passer. Là. C'est vraiment où on doit éviter les ennemis, on doit se cacher, on doit plus utiliser notre intelligence puis de jouer avec des gadgets, les ennemis, plutôt que de les affronter. Puis c'est quand même intéressant, c'est quand même bien, on a quand même toutes les mécaniques de se coller sur les murs, de se cacher, d'utiliser les objets, de se mettre les ombrages, sauf, marcher dans l'ombre.
Sauf qu'évidemment, t'as beaucoup moins d'informations que t'aurais dans un jeu de stealth standard.
Ouais.
Parce que cette information-là est beaucoup reléguée au joueur qui est en support. Puis justement, du côté du pirate, donc l'expérience que moi j'ai faite avec le personnage de Martin, c'est ça. Donc, on a un écran qui est divisé en quatre, qui représente quatre parties d'un moniteur d'ordinateur. C'est très, très standard. Là. C'est des écrans noirs et bleus, verts, là. Très, très typique hacker stuff. Rien de fancy, sa présentation, mais c'est très, très fonctionnel. Puis les contrôles sont bien répartis entre les différentes fenêtres, te permettent de contrôler une chose sur un côté pendant que tu en vérifies une autre ailleurs. Je vais décrire, évidemment, les quatre écrans. En haut à gauche, on a ce qui est la console, qui va contenir les messages, puis qui va nous permettre de chatter par texte avec le joueur espion. En haut à droite, on a toujours une caméra, qui est soit la caméra à la première personne du personnage de Katia, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas très clair. La caméra est très, très noir et blanc, gère mal la lumière, donc on est toujours un petit peu en recherche d'informations. L'acquisition d'informations n'est pas super claire. Puis ça l'ajoute beaucoup à l'expérience, justement, d'être obligé de prendre tous nos outils puis de communiquer pour bien comprendre ce qui se passe. Puis cette caméra-là va changer. Si on clique sur des caméras dans la vue de la carte tactique qui est en bas à droite, si on clique sur une caméra, on la contrôle. Ce qui fait que cette caméra-là ne déclenchera pas d'alarme quand le personnage de Katia va passer devant. Et ça nous permet de la contrôler pour regarder et cibler des ennemis qui pourraient être dans l'environnement. Puis quand on voit un ennemi dans l'environnement, il devient visible sur la carte tactique. Donc, comme ça, on peut suivre son progrès partout dans l'environnement. Puis on peut même aller cliquer dessus dans la carte tactique pour qu'il apparaisse comme un voyant, une flèche qui apparaît dans la vue du joueur espion. Puis la dernière fenêtre en bas à gauche, une espèce de vue de réseau. Ça a l'air d'une espèce de flowchart, de diagramme organisationnel. Bref, où est-ce qu'on a tous les ordinateurs sur un réseau, certains qu'on peut hacker. Puis il y a comme un petit peu une mécanique là, plus directe de déplacement puis d'action qui se fait là, qui nous permet de rentrer dans des ordinateurs, aller lire des courriels qui peuvent être utiles, mais la plupart du temps, c'est juste de la couleur. Puis plus souvent qu'autrement, ça va nous servir aussi à aller hacker des portes. Puis petit fait intéressant au niveau des portes, c'est que quand on hack le numéro d'une porte, on obtient juste le code. Puis il faut le donner verbalement à l'autre joueur. Donc c'est comme, OK, t'es dans avant de telle porte, ça me prend... Quel code, c'est 7-8-4-6. Puis il doit le rentrer à son tour. C'est pas magiquement transmettre les deux.
Les coffres-forts, les portes, les...
Ouais, tout ce qui a un code numérique, là, tout ce qui est acquis comme ça.
Ce boulot de communication doit être vraiment le fun à faire. Là. Ça doit être comme...
C'est vraiment la première fois que tu prends un feel du jeu. Mm. Parce que t'es dans le tableau de tutoriel là, qui est un petit peu rough, honnêtement. Là.
Donc, qui est clairement un des points faibles du jeu. Là.
Quand tu commences le tutoriel, la première fois que tu hackes une porte, là, c'est comme... Pour le hacker, c'est comme, bon, mais là, clique sur telle place pour avoir le code. Puis là, c'est une petite fenêtre automatisée qui se met à compter, puis là, tu vois les quatre chiffres. Puis là, c'est comme, OK, genre, les appuyer sur T pour écrire dans le chat le code de l'autre joueur. Puis là, c'est comme, fuck off, là. Tout le monde qui joue à ça, là, t'ouvres Skype, puis tu te parles. Là, parce que la communication est excessivement importante au jeu.
Au niveau de l'expérience, c'est comme j'ai dit, c'est un basic stealth game. Les mécaniques sont pas super complexes, mais c'est un stealth game où on n'a pas de minimap. Où on a pas d'indicateur, rien. Il y a un compas en haut qui indique où est le nord, qu'on sert, parce que c'est notre seule référence entre les deux joueurs pour se situer dans l'environnement. Et on voyait où le nord, il y a un petit drapeau là, sur le compas qui indique la direction générale de ton objectif principal.
Tandis que le hacker, lui, voit vraiment un flag sur la carte. Il est où l'objectif, où est-ce qu'on... Ben, en fait, la localisation générale, mais il voit sa carte, donc c'est clair. C'est ça, fait que bref.
Ouais, fond, c'est vraiment splitté en deux morceaux ce que d'habitude t'as sur un écran ou pis, un écran avec des menus.
Là. Exactement, puis c'est là que le jeu il shine. Ouais. Parce que c'est là où je me retrouvais à OK, mais j'arrive dans un entrepôt, il y a une porte, j'entends parler, j'entends l'autre côté, mais je sais pas, y a-t-il des caméras? C'est des caméras de voix, c'est, la mission est échouée immédiatement. Mm-hmm. Sauf que si le hacker contrôle une caméra, cette caméra-là est désactivée, puis elle ne verra pas. Fait avant d'ouvrir une porte, c'est tout le temps, là, OK, qu'est-ce que tu vois de l'autre côté? T'as-tu accès? Y a-t-il des caméras? Là, le hacker contrôle la caméra, va spotter les ennemis, qu'il y en a un qui marche devant toi, il y en a un qui fait un corridor. Là, une fois que tu vas être rentré, il y a deux bibliothèques, tu passes vite, tu tournes à gauche dans les bibliothèques, les ennemis ne te verront pas, tu vas pouvoir attendre que l'autre aille passer.
Un de nos premiers moments, en fait, la première, on a joué en deux sessions. On n'a pas fini le jeu, on a fait les quatre premières missions. Ouais. Dans notre première session de jeu, la troisième mission, ou en fait la deuxième après le tutoriel, je devrais dire, là, on est dans une espèce de bureau sur trois étages, une tour à bureau. Puis, on arrive à un point où est-ce qu'il faut aller chercher quelque chose dans une salle d'archives. Mais là, il y a vraiment un côté où est-ce que le hacker doit faire comme beaucoup d'acquisitions d'informations parce qu'un mur sur sa carte, une ligne qui représente un mur, peut être différentes choses, ça peut être une fenêtre. Donc, le gars qui est au bord, l'ennemi que tu vois qui est au bord, ben, tu le sais pas, mais il peut voir au travers.
Il y a une place où tu avais des corridors, tu dis traverse ce corridor, je dis un peu, c'est pas un corridor, c'est une passerelle grillée, il y a des ennemis et des caméras partout.
C'est ça. Parce que lui, c'est une espèce d'entrepôt ouvert avec deux escaliers chaque bord, puis il y a du monde en haut qui voit en bas. Ouais, okay. Mais j'ai pas cette info-là. Fait que tu te promènes entre les caméras pour faire de l'acquisition d'informations, puis des fois, justement, il fait juste comme t'as une minute, là, ça va être une room, là, mais c'est ça, il y a un gars, là, puis genre, ok, c'est pas un mur, là, c'est une bibliothèque, puis il va au travers. T'es, oh, ok. Fait qu'il y a vraiment comme tout ce côté-là. Puis quand t'arrives devant une porte fermée, là, il est comme, il dit, OK, qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord, là? Mais toi, tu vois la tactical map, fait que t'as une idée de la pièce qui est de l'autre côté. Puis si t'as des caméras, tu peux scatter. Puis là, tu vas voir les ennemis apparaître sur la carte. Parce que tant que soit l'espion a pas vu un garde ou que je les ai pas vus sur la carte en tant que hacker, l'ennemi est pas visible sur la carte. Tu vois pas tous les ennemis magiquement. Faut qu'il ait été spoté first. Puis après ça, t'es comme, OK, bon, mes gars, il y a deux ennemis. Je vais te mettre tes menaces évidentes. Je vais te cliquer que tes voix.
Puis tu peux en flaguer juste trois. Fait que des fois, il y a peut-être 5-6 ennemis. Mais là, OK, ben autour du numéro 2, ils sont trois. Là, je t'ai flagué le 1, ils sont deux.
Souvent, dans un cluster, on en prenait juste un. Puis si la situation changeait, bon, on s'informait. Puis il voit pas aussi dans quelle direction il regarde. Parce que moi,
ça va être très intéressant de vous écouter. Pour vrai, le prochain coup, je me mets sur Skype juste pour vous entendre.
Mais c'est vraiment le fun. Mais il y avait un petit bout dans ce tableau-là avec les archives.
C'est ça. C'est là qu'on s'en allait. C'est que ça a été vraiment notre meilleure expérience, ce tableau-là, parce que deux moments en ligne, à la fin de cette mission-là, c'était juste. Ça a élevé l'expérience à un complètement autre niveau avec justement les corridors, first.
Oui.
Là, on avait justement les... t'avais comme des espèces de corridors, c'était un peu configuré en H, si on veut. Puis, bref, GF savait pas ce qu'il y avait l'autre bord de n'importe quel coin. T'sais. Tandis que moi, je voyais, bon, OK, il y a une caméra là, puis il y a un garde qui fait la ronde. Puis là, je disais, OK, bon, là, tu y vas. En fait, je vais t'attendre, il y a un garde qui fait la ronde. Quand je te le dis, il est dos, t'as le temps de passer, fais-moi confiance.
T'sais. Mais c'est la première fois où, jusque-là, quand on jouait, tu me demandais souvent, OK, qu'est-ce qu'il y a là? J'ai pas l'information. Je vois pas si c'est un mur, si c'est un grillage, si c'est une fenêtre. C'est moi qui donnais l'information. J'étais les yeux. Puis d'un coup, c'est la première fois où ça s'est inversé. Mmh. Où les corridors étaient trop petits, où je voyais pas, où il y avait plein d'ennemis, puis il fallait passer à travers les caméras, puis tout ça. Puis là, tu m'as dit, ben, fais-moi confiance, puis bouge quand je te le dis. Puis, go, bouge, t'as le temps. Passe en arrière du garde, tourne à gauche, ouvre la porte, rentre là, je prends la caméra, traverse la pièce, je prends l'autre caméra, t'es correct. Puis.
Il y a pas un jeu qui a cette expérience-là, là, de faire comme, faut que tu y fasses confiance. Puis t'essayes de supporter où ce que tu peux. T'as certains outils en tant que hacker là, qu'on n'a pas vraiment parlé à date, mais t'as des espèces de perks que tu peux activer pour, mettons, caller un cleaner qui va se débarrasser des cadavres.
Puis tu parles du cleaner qu'on a utilisé dans notre mission préférée, en fait, qu'on a joué.
Ah, c'est oui.
Ben, l'émission qui clairement se démarquait des trois autres qu'on avait faites, qui était l'émission qui se passait à la résidence Vatkov.
Ouais, exact, en résidence fait. Vatkov.
Qui était une soirée mondaine où le personnage de Katia est en robe tout le long de la mission, en robe et en talons hauts. Tu peux pas courir, t'as pas d'arme, t'as rien. Tu peux ramasser une arme si jamais il y a un garde qui est knockout, mais là tu peux plus le mettre dans ton holster, t'es pris avec dans tes mains, fait tu peux pas traîner une arme. Puis toute cette mission-là est une mission sociale où tu dois te promener, puis garder ton cover, puis aller parler à des gens pour ramasser des informations, puis avoir de la dirt sur un pour faire parler.
Fait que c'est vraiment pas une mission de jeu d'action, pour une fois.
Parce qu'on va se le dire, la mécanique de shooting est atroce, ça fait mal. c'est terrible, ça n'a aucun sens. C'est la seule mission où tu ne peux pas tirer une fois. C'est la mission qui shine et qui se démarquait des autres. On a vraiment eu du plaisir à jouer à cette mission-là.
Pendant la mission, tu croises une fille qui est une ancienne espionne du passé de Katia. Puis il faut que tu l'évites parce qu'elle va blower ton cover si elle te voit. Fait que là, ces caméras, t'as cherché tout le temps, là, le hacker, là, peut-être que je suis comme, oh non, elle est dans la cuisine.
Enfin, on s'est rendu compte qu'elle avait un pattern, là, elle allait de la cuisine à salle de bain, à cuisine, à salle de bain, à cuisine,
à peu près. Oh, ben, elle arrêtait des fois jaser dans l'espèce de lounge.
Jaser, hein. Oui,
oui, oui. Ouais. Mais c'est ça, fait que t'es vraiment comme un. C'est comme, OK, elle est où là? Là, t'es comme, OK, attends une minute, bouge pas de là, t'es safe. OK, je viens de le spotter dans tel room, fais le tour par là. Tu sais, il y a vraiment comme un. Il y a vraiment une dépendance d'un joueur sur l'autre pour avancer la mission. Malgré la faiblesse de l'histoire, parce que, sérieux, on l'a mentionné là, mais c'est terrible. Là. L'histoire est tellement générique, puis il essaye d'avoir beaucoup de dialogue, puis de développement entre les missions.
Qu'on peut heureusement tout skipper.
Eh oui, a-t-on découvert un petit peu trop tard?
A-t-on découvert quand le personnage principal dit comme Link dans la première conversation « We don't have time for that ».
Voilà.
Ce qui nous a marqué, ouais. C'est devenu le motto des dialogues.
À toutes les fois au début, là, ça change un petit peu, mais t'as un briefing, puis là c'est comme, t'as le choix de demander plus d'infos, whatever, mais t'as « We don't have time for that ». Puis tout automatiquement, c'est comme « Fuck it, amène-moi dans la mission », puis c'est tout. Mais quand on est arrivé à la résidence Vatkov, on a comme pas eu le choix de faire comme « OK, qu'est-ce qu'on crisse, là? Parce que t'arrives, là, t'es comme les objectifs de mission, c'est attendre que ton partner ait distrait, tel, puis c'est comme, ouais, mais qu'est-ce que je fais?
Puis à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'histoire.
Ouais, c'est ça.
Parce que c'était lié aux mécaniques, c'est lié à l'histoire, par la mission, du coup, ça s'est devenu intéressant, là.
C'est voilà. Un jeu qui a un très, très bon level design, est très confiant en ses mécaniques, puis le level design, justement, souligne très, très bien le lien entre les deux joueurs. Donc, on le recommande. Et on va faire plus que le recommander, en fait.
Ah oui, parce que grâce à l'entregent de M. Bonin ici,
on a eu 4 clés de la part des développeurs.
Ben, je l'avais quasiment oublié, en fait.
Ça fait plaisir. Donc, ça, on s'est fait remettre 4 clés Steam pour le jeu, qui est quand même d'une valeur de 28$ le jeu. Là, donc, ça va permettre aux gens de l'essayer. Merci, merci.
La foule 8 bits est en délire.
Puis vu que c'est un jeu essayé à deux, on va donner en fait les clés en deux paires. On va vous dire comment participer à la fin de l'épisode.
Réflexion.
Sur la semaine. Cette semaine, comme de nombreux Québécois, j'ai été victime des changements d'humeur de Mère Nature. Pendant 2 heures, j'ai été privé de services Internet et télévision à la maison.
Hey, fuck you.
Un bien piètre mal comparé aux gens moins fortunés des régions qui ont été privés d'électricité durant plusieurs jours, me direz-vous. Mais néanmoins...
26 heures.
Mais néanmoins, durant ces 2 toutes petites heures passées bien au chaud dans le confort de mon 4,5 tout près du plateau, éclairé de mes nombreux luminaires très tendance, ben, j'ai... Merci. Ça finit plus, ça?
Non.
J'ai dû me résoudre à utiliser mon petit routeur Internet mobile LTE afin d'avoir accès à Internet.
Ah, le tiers-monde.
Le tiers-monde. Mais blague à part, évidemment, j'ai eu la chance d'être pratiquement épargné par les pannes électriques. Mais la situation m'a permis de réfléchir à l'importance que prend Internet dans nos vies et du vide qui se crée rapidement lorsqu'on perd l'accès, ne serait-ce que momentanément. Donc, on s'aperçoit rapidement que pour le meilleur et pour le pire, Internet possède une place immense dans notre quotidien. Évidemment, nombreux sont ceux qui vont se ruer sur l'occasion pour y voir une faiblesse de notre société moderne ou un handicap de la jeunesse d'aujourd'hui. Mais j'aimerais saisir l'occasion aujourd'hui pour me faire l'avocat du diable et présenter un point de vue peut-être différent de celui qu'on entend habituellement.
C'est comme le diable avec les Devil Daggers.
C'est ça, c'est un thème. thème qui se continue ce soir. Donc, comme ça semble être le cas régulièrement, évidemment, depuis l'épisode d'aujourd'hui, mais j'aimerais vous ramener dans les années 90 au Royaume-Uni, alors que la grande majorité d'entre nous était fort probablement encore trop jeune pour s'intéresser à la politique internationale. Pourtant, en 1992, il y a des membres d'un groupe politique nommé la Gauche démocratique au Royaume-Uni qui a publié un texte qui est intitulé en anglais « Manifesto for New Times », donc « Le manifeste des temps nouveaux ». Dans lequel les auteurs décrivaient un système selon lequel les employés et le patronat ils s'éloignaient de la mentalité du travail à la chaîne en faveur d'une époque de grande liberté d'expression au prix d'une perte de contrôle des marchés. Donc l'ouvrage y arrivait comme une sorte de prémonition avec la chute du mur de Berlin qui arrivait un petit peu plus tard dans la même année. Mais ce que les auteurs du manifeste ne pouvaient absolument pas anticiper, c'est l'œuvre d'un informaticien anglais du nom de Tim Berners-Lee qui, dans les mêmes années, inventait le World Wide Web et établissait la première communication HTTP client-serveur via ce qu'allait devenir Internet. Donc, personne à ce moment-là aurait pu imaginer l'impact qu'allait avoir la combinaison de la réunification allemande et des nouvelles technologies. On vit aujourd'hui dans un monde extrêmement complexe où on peut naviguer à travers des milliers de réseaux informatiques différents en quelques clics avec un accès à toute fin pratique illimité à l'information et aux échanges sociaux. Évidemment, les médias sont très prompts à se jeter sur le sujet en soulignant les dangers de l'isolement, l'exposition à la pornographie en ligne, les enjeux liés au piratage informatique et aux vol d'identité, en fait. On n'a qu'à penser au succès de l'État islamique dans leur tentative d'inciter la terreur et de mobiliser la presse internationale en diffusant en ligne des vidéos horribles pour venir à la conclusion facile que la liberté d'expression sur Internet, c'est un outil qui peut être dangereux. Mais notre facilité à accepter toutes les différentes technologies dans nos vies nous révèle peut-être que la réalité n'est pas aussi sombre que ce que les médias nous laissent paraître. Dans mon quotidien, au travail, il me revient de former les gens en centre d'appel à mieux répondre et prendre en charge les besoins des clients avec une grande partie de ce que j'enseigne étant basé sur le travail d'un psychologue américain qui répondait au nom de Abraham Maslow et de sa pyramide des besoins, en fait, qui nous enseigne que pour se réaliser en tant qu'individu, on a besoin, entre autres, de sécurité, d'appartenance et d'estime de soi.
Mais... Ça va me faire des flashbacks de mes coupes.
mais en dehors de l'analyse des échanges en service à clientèle, on peut appliquer le même concept à Internet. Qu'on parle d'un environnement sécuritaire dans lequel évoluer sans risque, la quête d'attention, d'avoir un sentiment d'autonomie puis de contrôle, le sentiment d'appartenance à une communauté, de réalisation ou de statut dans un groupe social. Si c'est ce qui caractérise nos besoins en termes de santé puis d'équilibre mental, mais Internet, c'est un outil exceptionnel qui nous permet de combler nos besoins. En contraste avec une société capitaliste qui cherche à réduire au maximum nos interactions sociales à des transactions qui sont quantifiables et monétaires, est-ce que c'est possible de voir en l'entité qu'est Internet une sorte de manifeste des temps nouveaux? Il n'a jamais été plus facile qu'aujourd'hui d'exprimer ses opinions publiquement ou de discuter celles des autres, de partager ses réalisations artistiques ou même de collaborer avec d'autres artistes malgré la distance et pratiquement gratuitement. On peut rejoindre une communauté avec des intérêts communs aux nôtres. On peut faire une levée de fonds pour financer un projet ou organiser des mouvements de société. Le printemps arabe ou même le printemps érable n'ont pas été juste des soulèvements sociaux lointains qui se passent dans un autre pays. Ça a été des échanges directs, en ligne, avec des gens qui cherchaient à échapper à l'oppression puis à exprimer leurs opinions. En étant soutenus par la solidarité de millions de personnes à travers le monde qui avaient la possibilité d'exprimer leur support puis d'être entendus. Même si la technologie est souvent perçue dans l'opinion publique comme un moyen vide puis froid d'interagir, moi, je vois plutôt un nouveau type de relation qui est un mélange de virtuel et de réel. Internet, ça devient en sorte une sorte de facilitateur des échanges humains. Sans Internet, on aurait beaucoup de difficultés à organiser chacun des épisodes de Divan Quest, malheureusement. Puis merde, on n'aurait aucun auditoire. On va se l'avouer.
Ouais, même. Puis,
sans Internet, garder contact avec mon frère en Alberta, ça serait beaucoup plus difficile. Donc, peut-être que c'est censé nous éloigner, mais à plusieurs niveaux, ça nous rapproche aussi. Avec le monde des possibilités, la quantité de communautés en ligne qui peut échanger facilement sur tous les sujets, qui permet aux gens qui ont des idéaux communs de se rassembler malgré les frontières pour expérimenter avec des nouvelles structures sociales puis challenger le statu quo, avec les changements de vision politique au Canada puis aux États-Unis, avec la popularité d'un homme comme Bernie Sanders auprès des jeunes ou avec le référendum écossais sur l'indépendance, est-ce que c'est déraisonnable de penser qu'Internet, c'est un facteur positif de changement dans la société? Est-ce que c'est déraisonnable d'y voir un manifeste des temps nouveaux?
À chaque fois, j'ai comme tant de la misère à repartir après son... Tu sais, des fois, c'est parce que c'est juste une série interminable de jokes de bat. Une fois, c'est très profond. Félicitations.
Des fois, je t'ai inspiré. Qu'est-ce que je dis? Des fois, je parle d'un sujet qui me tient à cœur.
Puis moi, après ça, je parle d'un jeu.
Ben voilà, pour ramener un peu de légèreté après. Ils ont le temps de penser pendant que tu nous parles de...
Je nous parle de Grim Fandango.
Yes.
Ouais, en fait, j'ai décidé, moi, que j'étais tanné qu'on essaie de se mettre dans des petites cases où est-ce que je parle de RPG, puis Mathieu parle de jeu d'aventure. Fait que la semaine passée, il a parlé d'un RPG, puis là, cette semaine, je parle d'un jeu d'aventure. On échange comme ça, plein de choses, y compris nos petites bibittes.
Ça vous regarde pas. Voilà.
Donc, il y a eu la semaine dernière, dans le Humble Bundle, qui est terminé maintenant, malheureusement, Grim Fandango Remastered. Mais en fait, j'avais souvent entendu parler de Grim Fandango. Je n'avais pas... tu sais, j'ai entendu parler comme vaguement, genre, ah, c'est vraiment un bon jeu. Mais sans vraiment plus d'informations que ça. Dans le bundle, il y avait aussi, là, une petite parenthèse, Dead State Reanimated, un genre de RPG avec des zombies. Ça a l'air quand même le fun. Je vais probablement en jouer puis vous en reparler éventuellement. Mais là, j'ai décidé de jouer à Grim Fandango. Tu sais, je pense que vous en rendez compte, là, souvent, je prends des jeux que je connais pas trop, que j'ai vaguement entendu ou que Mathieu me dit « joue à ça sans m'en dire plus ». Ça arrive.
Achète ça, joue.
Achète ça, joue. Puis moi, ben, je suis comme influençable. Fait que, OK. En fait, celui qui a ma carte de crédit maintenant, il les achète direct, les maisons.
Ouais, j'ai des mauvaises nouvelles pour toi. On en parlera plus tard.
C'est pour ça que ton hypothèque. Hein? Ouais, bon. Bref, je connaissais pas grand-chose, mais j'ai dit, bah, tiens, allons-y, jouons à ce jeu-là. J'ai peut-être vu passer un démo, on dirait que ça me dit quelque chose à un moment donné. Tu sais, les gens de, dans le temps des CD de démo des magazines de jeux, genre.
Les samplers.
Ouais, hashtag nostalgie.
Surtout que d'ailleurs, LucasArts avait des sampler discs où il n'y avait que des jeux de LucasArts dessus. Donc c'est possible
peut-être
que
t'aies ouais. Bref, j'ai peut-être vu passer ça à un moment donné dans un jeu de démo, mais sans plus avoir d'informations. Bref, j'avais vu aussi là, que Tim Schafer était impliqué là, quand j'ai préparé mon segment sur Costume Quest. À ne pas confondre avec Divan Quest, hein, ben, c'est un peu la même chose, mais sans que je parle autant Shadowrun. Bref, à part savoir que le personnage principal était un squelette puis que tout le monde semblait avoir aimé le jeu, j'en savais pas grand-chose. Fait que la fin de semaine passée, j'ai décidé de me taper une petite journée de gaming. Ça faisait longtemps. J'ai parti la Steam Link. Puis j'ai parti Grim Fandango.
Puis j'ai perdu l'électricité.
Non, ça c'est plus tard.
Et voilà.
Non, c'est arrivé plus tard. J'ai l'impression qu'on en reparle.
Il y a déjà des flashbacks.
Non, en fait, c'était... Tantôt, quand il parlait de sa perte d'Internet de 2 heures, mais qu'il avait finalement son routeur LTE, j'allais juste te faire remarquer que moi, habitant en campagne, quand je perds l'électricité, je perds aussi l'accès à l'eau, hein, parce que j'ai une pompe qui marche avec de l'électricité.
Hey, hein, c'est des second world problems.
Ouais, Bref.
Oui. Alors, Grim Fandango.
Grim Fandango, c'est l'histoire de Manny Calavera. Calavera, c'est espagnol, c'est un mot espagnol pour dire tête de mort, mais ça représente particulièrement les têtes de mort qui sont utilisées pour célébrer la journée des morts, le 2 novembre. Donc, qui sont très stylisées, là, même que des fois, il y a des fleurs et tout ça. Donc, Manny, c'est un genre d'agent de voyage, là, avec des gros guillemets, dans le monde des morts. En gros, quand un humain meurt, il est accompagné par un Grim Reaper là, comme Manny, qui va aller le chercher dans le monde des vivants, l'amener dans l'huitième monde, le monde des morts, puis évaluer son dossier pour lui suggérer un moyen de transport qui va lui permettre de traverser le monde des morts pour se rendre vers le neuvième monde, là, qui est quelque chose comme le paradis probablement de ce que je comprends là, de la mythologie de ce jeu-là. Ça dit là, qu'à pied, la traversée vous prendrait 4 ans, puis selon la vie que la personne a vécue, il y a différents moyens de transport qui peuvent être proposés, là, genre une voiture sport ou un bateau. Puis le meilleur moyen de transport, ben, c'est un train qui va la traverser en 4 minutes. Mais ça, il faut que tu sois vraiment hot pour pouvoir faire ça.
Je serais mal pris. Je serais pris avec un métro de la STM.
Toujours en panne. Ça va prendre 5 ans.
Interruption du service.
Pour une durée indéterminée.
Parce qu'un gars avec une canne s'est fait ramasser par un métro. Sa ligne verte! Tout le temps, sa ligne verte!
Puis il est allé se... Puis là, c'est là que Manny est allé le chercher.
Et pour, voilà.
Comme le gars s'est pitché devant le métro, ben, il va falloir qu'il reste poigné dans le métro. Ben. Mon Dieu, on a une suite québécoise à Grim Fandango. Tout ça pour dire que, dépendant de la vie que le client a vécue, on peut lui proposer différents moyens de transport. Ceux qui ont vécu une vraiment très mauvaise vie, comme Manny, doivent payer leurs dettes en travaillant pour le ministère de la mort. Donc, ils travaillent pour vendre les forfaits aux gens qui sont décédés. Puis là, ben, plus ils vendent des bons forfaits, plus ils paient rapidement leur dette pour pouvoir, après ça, se rendre dans le 9e monde. Pas trop sûr de comprendre le comment puis pourquoi, mais c'est pas très grave. C'est comme ça rend la chose un peu drôle. Donc, Manny se retrouve toujours, lui, avec du monde poche, à qui il peut jamais rien vendre d'intéressant. Puis son boss est tout le temps sur son dos à cause de ça. Va-tu vendre des bons forfaits, puis il se rend compte avec les clients qui... Tu sais, que le premier client que tu commences au début du jeu, tu peux lui donner une canne avec une boussole pour l'aider à se repérer, que ce soit un peu moins long. T'sais. C'est le mieux que tu pouvais faire. Puis encore là, je pense qu'il a forcé un peu la note pour lui donner la maudite canne avec une boussole.
T'sais. Il a fait un bon deal.
Là, t'sais. Fait que son boss est de temps sur son dos, puis lui, il est comme, si tu veux que je te fasse, tu m'envoies juste des épées. Fait qu'à un moment donné, il décide. Dans le fond, son collègue, plutôt avec qui il travaille, lui, il a toujours les bonnes sœurs, puis les bonnes sœurs, mais les nuns, là. Oh oui. Puis les gens qui ont fait du bénévolat, puis les gens avec des super belles âmes qui ont tout le temps les gros forfaits, les trains, puis tout ça. Fait que Manny se tanne, puis décide d'essayer de lui voler une cliente, qui est Mercedes Meche Colomar, qui est un personnage important dans le jeu, là, qui devrait, selon son pedigree, avoir accès à un train, dans le fond. Selon son dossier, elle a tout le temps fait du bénévolat, puis il essaie de trouver de la dirt dessus, là, un moment donné, dans un échange avec, puis t'as tout le temps payé des impôts, elle dit « jamais payé d'impôts ». Ah, mais ben c'est pour ça, ben non, j'ai jamais gagné assez d'argent que j'ai pas redonné en don de charité pour pouvoir payer de l'impôt. Tu sais, genre, la fille, elle a vécu une vie parfaite, donc elle devrait avoir accès au train. Mais il se rend compte que malgré tout, il peut quand même pas lui attribuer le train. Puis c'est là que l'histoire va commencer vraiment. Mais c'est aussi là que je me suis rendu.
Oh.
Ouais, j'ai pas joué énormément. Mais en même temps, j'aurais pas voulu non plus expliquer plus de choses passer ce bout-là. Parce que bon, tu sais, ce bout-là, c'est un peu l'introduction, si on veut, du jeu, même si c'est sur une pas pire longue période avec les puzzles puis tout ça. Mais j'aurais pas expliqué plus. Reste que c'est un peu le setup du jeu. Tu te rends compte que quelque chose de pas net, puis t'essaies de comprendre ce qui se passe. Donc, comme je dis, c'est pas parce que le jeu est pas bon que j'ai pas joué, c'est plus par manque de temps, puis dernièrement par manque d'électricité. Ça a l'air que ça marche pas très bien, ces jeux-là, sans
ça va de pair.
En même temps, ben, comme je dis, j'aurais pas voulu en dire beaucoup plus. Selon Steam, là, j'aurais joué à peu près 2 heures jusqu'à maintenant.
C'est un jeu... Qui, pour un jeu d'aventure, il est long. C'est un jeu d'aventure qui a beaucoup de viande.
Ben, 2 heures, j'ai comme presque
rien fait au niveau de la journée, là, parce que moi, c'est une série de tableaux, puis t'as fait la première.
Ben voilà, j'ai fait le premier tableau. Ce que j'ai compris là, en regardant, en lisant un peu, le jeu est comme séparé en 4 années. Puis je suis loin d'avoir fini la première année. Ben loin peut-être pas, mais en tout cas, j'ai pas fini la première année.
T'as 2 heures de fête, il reste pas mal d'heures dans ton année.
Ouais, c'est ça.
Alors, j'ai pas fait le calcul, là, mais vite de même, là, 24.
Es-tu bissextile?
Crise de 20 ans.
Rigueur!
En fait, ce que je pourrais te dire, là, que j'ai pas dans mes notes nulle part, c'est que chaque année se passe la même journée, le jour des morts, de toute façon, là.
Puis on des feels très différents.
Okay.
Puis c'est une des beautés du jeu. Là,
ben, j'ai hâte de voir. C'est sûr que je vais continuer le problème. Écoute,
la deuxième, c'est ma préférée.
Semaine
c'est
de vrai. Relâche, voulant dire, je vais m'asseoir sur mon divan.
T'as beau être le gars des RPG qui parle de jeux d'aventure, mais moi, je le connais.
voilà. Donc, l'histoire, comme je disais, elle est vraiment centrale au jeu. Fait que c'est pour ça que même si j'en savais plus, j'en dirais pas plus. C'est quoi comme jeu? Ben on l'a dit, c'est un jeu d'aventure en 3D. Les backgrounds sont statiques, puis les personnages sont en 3 dimensions, puis se déplacent dans ces backgrounds-là. Il y a beaucoup de dialogues, beaucoup d'exploration, puis beaucoup de puzzles à résoudre. En gros, t'sais, le reste de l'aventure, là, t'explores, tu ramasses des objets, t'essaies de ramasser toutes les petites conneries que tu peux ramasser au cas où ça te servirait plus tard. Mais l'inventaire, comment il est géré, c'est quand même nice, parce que quand tu passes le bouton d'inventaire, tu vois un close-up du chest du gars, puis il sort les trucs de comme la poche intérieure de son veston, mais tu sais, toutes ses affaires, là, genre le sapho de Grim Reaper, qui se plie comme une canne d'aveugle. mais il va sortir une autre affaire, un paquet de cartes, un fémur, tu sais, c'est...
Puis toi, t'as joué à la version remastered, right?
Oui, remastered.
Puis as-tu vu des comparaisons avec la version originale? Oui,
ouais, ça s'en vient.
OK.
Donc, c'est drôle parce que tu vas voir tous les objets qui sortent de son veston. Puis c'est un petit clin d'œil là, assez le fun. Puis comme je disais, ben, l'histoire est très, très centrale. Le jeu tourne autour de ça. C'est un jeu d'aventure. On s'attend qu'un jeu d'aventure, s'il n'y a pas d'histoire, c'est...
Est-ce que, excuse-moi, là, mais pas parce que je connais les deux versions. Est-ce que t'as joué avec les contrôles au clavier?
J'ai pas joué beaucoup avec les contrôles clavier, comme quelques secondes, parce que j'ai joué sur Steam Link, puis ça se jouait assez bien. Là. J'en parle des contrôles, parce qu'il y a des trucs quand même, les nouveaux contrôles sont pas les anciens, là. Il y a une très grosse différence.
Okay.
Donc au départ, c'est un jeu de Tim Schafer, comme je disais tantôt, là, qui était Project Lead quand il était chez LucasArts. Dans le fond, c'est un jeu que LucasArts a développé pour tenter de donner un second souffle au jeu d'aventure, parce qu'il était un peu en perte de popularité à ces moments-là, dans la fin des années 90, mais ça avait été un gros créneau pour eux autres dans les années avant ça. C'est les années où Mathieu est devenu un homme.
en jouant à Monkey Island et à Full Throttle. Oh, je sais que je l'ai déjà dit sur le pod, mais Chris, que moi, je l'aime, ce jeu-là.
Ce que j'aime, c'est que je découvre un style de jeu que j'avais... pas découvert pour une raison ou une autre, puis c'est sûr que ces jeux-là, je vais finir par les jouer.
Ah, c'est des bijoux d'écriture humoristique. Là. Les dialogues sont toujours magnifiques. Tu veux explorer chaque option de dialogue dans ces jeux-là parce que c'est toujours drôle. Là.
Mais là, à date, c'est comme mon deuxième jeu de Schafer dans Divan Quest. Je vais me faire tatouer son nom sur une cuisse, quelque chose.
Ah, juste une cuisse?
Non, c'est une teat.
Ça à coup, je m'attendais à la fesse, il est monté direct sur une teat.
Direct sur une teat. Écran rond.
Autour de l'auréole.
C'est ce que je faisais l'autre fois quand je faisais ça. Là. Okay. Allez, les stickers. Bref, hey, un peu de rigueur.
Focus.
On diverge.
Le jeu était sorti en 98 sur PC. le jeu original, ou en 98 sur PC. Dans le jeu comme tel est influencé là, beaucoup par les histoires d'après-vie et la mythologie des Aztèques, d'où le truc de jour des morts, des calaveras, puis le côté là, des mondes qu'on a traversés. Puis c'est aussi, là, on reconnaît là, l'utilisation des calacas, qui sont les squelettes stylisés, là, qui sont les personnages du jeu. Ils sont vraiment cool, puis qui vieillissent bien, malgré qu'il n'y ait pas eu un gros update graphique au personnage. Ils vieillissent bien. Le côté cartoon qui est vraiment le fun. Donc, c'est des symboles là, qui sont reliés au jour des morts, là, cette fête-là qui est de novembre. Il y a aussi beaucoup d'influence des films noirs des années 30-40 au niveau de l'architecture, les buildings qui sont hors déco à côté, les autos qui sont directement calqués de Casablanca.
Avec les grosses grises devant des chars, puis les hoods allongés.
Toute la décoration, la lumière qui est beaucoup upgradée. Là, ça, j'en parlais pas beaucoup, mais la lumière qui est un des gros upgrades au niveau graphique qui amène encore plus de style. Un des exemples qu'on voit facilement quand on cherche un peu, c'est une image dans le bureau de Manny, où est-ce que tu vois, bon, il est dans son bureau, puis il est là, puis il y a une fenêtre, puis il y a de la lumière. Puis la version upgradée, ben, tu vois la lumière passer au travers les lattes d'un star vertical, tu sais, qui donne un feel.
Puis il me semble qu'il y a tellement rien qui est plus film noir que le détective qui regarde par la fenêtre avec les lattes
un star
du star
vertical.
Il y a un
personnage aussi qui fume, ce qui donne aussi encore beaucoup de look au le côté le film noir années 30-40.
Puis n'a jamais oublié que c'est des squelettes qui fument. Là.
Voilà.
C'est magnifique.
Mais parenthèse, semblerait là, que dans le manuel original du jeu, on souligne le fait que tout le monde qui fume dans le jeu sont morts. Donc, puis on le voit aussi beaucoup dans la musique. La musique là, qui est vraiment un des gros points forts du jeu. J'en ai choisi 3 extraits. Là. Ils sont un petit peu longs chacun, mais ça donne vraiment un feel différent. Puis moi, la soundtrack, je ne me tanne pas de cette soundtrack-là. La musique, elle est... Donc, c'était Casino Calavera. Un autre dans un style un peu différent, mais qui rejoint quand même. Swanky Maximino. Pour aller chercher les vivants dans le monde des vivants, en fait, les vivants qui sont morts dans le monde. Hein?
Ouais.
Ça te prend une voiture. Puis là, comme on disait tantôt, les autos sont un peu là, très
années 50.
Années 50, là, les grosses grilles et tout ça. Même en est, Manny ne peut pas y aller parce que, tu sais, quand on dit on dirait que tout est saboté, ben, son patron, la première fois qu'il y a un paquet de monde qui mange de la gazpacho passé date, là. Fait que faut que tout le monde aille chercher des cadavres. Puis son patron envoie son chauffeur à la maison en congé pour le reste de la journée. T'sais. Fait qu'il finit par, avec une petite passe, réussir à prendre le mécanicien qui est un démon. Puis que le démon modifie l'auto, puis ça en fait une espèce de gros hot rod qui a pas de sens. Et la toune du Bone Wagon qui est le hot rod de Manny.
The Bone Wagon.
La musique, c'est une des choses qui a été updatée dans la version remastered, mais j'ai comme décidé de ne pas mettre une des anciennes versions parce que la différence, elle n'est pas si grande que ça. La différence, c'est que l'ancienne version, c'était de la musique de synthèse, puis la version remastered, elle a tout été tapée. Elle a été enregistrée par un orchestre, l'orchestre d'Australie, là, je pense, quelque chose comme ça.
Puis elle est un pas mal plus haut bitrate.
Oui, c'est certain. C'est sûr. Mais c'est pas la différence n'est pas au niveau des tunes de Ease la dernière fois, fait que je n'ai pas fait une comparaison.
En fait, on m'a d'ailleurs accusé de choisir la pire version.
Ah, c'est ça.
Parce que le jeu est sur plusieurs plateformes, là, mais la version SNES, c'est dégueulasse.
C'est celle que j'ai connue.
Mais je trouve ça super cool, le gros feel de Jungle Beat, Duke Ellington, justement, des cabarets new-yorkais des années 50. Là.
Voilà.
Chicago, là, de ce coin-là.
J'ai parti la soundtrack remaster là, qu'on peut trouver sur YouTube pour commencer à préparer mon document puis voir s'il y a des tunes que je ressortais. Puis je l'ai écouté, je pense, pendant 2 jours non-stop pendant que je travaillais.
Puis tu t'es mis à fumer. Genre.
Je me suis mis à fumer. Je suis mort pour
fait
fumer.
Mais la première tune d'ailleurs que tu as fait jouer, je disais que mon année préférée, c'était la seconde, là. C'est le casino, justement. Puis dans les thèmes du film noir, tu t'attends pas à ça dans la première année, mais la deuxième année se passe dans un casino parce que bon, il arrive une mésaventure, puis il finit par être au contrôle d'un casino finalement. Tu sais, il est en veston blanc, puis c'est toute la grosse ambiance casino là, à fond, là, avec un cabaret de poésie à l'intérieur. Puis
non, ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs costumes. Tu sais, au début, tu commences à un costume noir très, très classique, puis tout ça. Ben, t'as aussi ton costume de Grim Reaper quand tu vas chercher quelqu'un. Puis où est-ce que je suis rendu, il y a un costume un peu guérilla, là.
c'est vrai.
Fidel Castro, là. Bref. Fait que la musique était écœurante. Puis une chance, parce que au moins quand t'es pogné dans un puzzle pendant un petit bout de temps, ben la musique te tombe pas ses nerfs, ce qui est agréable.
T'sais. Ça swing.
Voilà. Ça développe toute une atmosphère dans le fond là, qui te fait rentrer dans le jeu comme si t'es en train de jouer dans un film finalement. Puis je pense qu'on pourrait faire un film avec l'histoire de ce jeu-là, puis ça serait pas plate. Puis comme je dis, quand on parle d'un jeu d'aventure, plus tu te sens dans le jeu, plus c'est intéressant, c'est certain. En même temps, c'est un jeu où est-ce qu'il y a énormément d'humour. Il y a un humour, de l'humour léger aussi, puis de l'humour noir, c'est certain, qui rajoute un petit côté humoristique. Là. Ça aide à beaucoup apprécier le jeu, ça aide à le rendre très, très accrocheur. Par exemple, m'en est un gonfleur de ballon. Tu peux lui demander n'importe quels animaux. Tu peux lui demander un dead worm. Puis il fait juste donner une ballonne pas gonflée. Mais tu peux aussi lui demander de faire un Robert Frost. Robert Frost, j'ai googlé parce que j'avais aucune idée.
C'est pas un poète?
C'est un poète, oui, c'est un poète américain du 20e siècle.
C'est celui qui écrit The Road Less Traveled By.
Je pense que oui. Bref, c'est écœurant parce qu'il te fait un Robert Frost en ballon, mais qui ressemble absolument pas à un humain. Ça n'a même pas rapport. Puis t'as Manny qui fait comme It doesn't even look like Robert Frost. C'est très drôle pour ça. C'est le petit côté humour un peu plus léger, tu sais. T'as aussi j'allais dire, oui, c'est ça, un côté un peu plus humour noir. Tu sais, comme je disais tantôt, là, tu te payes différents moyens de transport pour pouvoir faire ta démarche. Puis le gars qui que Manny réussit à se ramasser dans l'épidémie de gaspacho, là. il n'y a pas les moyens d'avoir un hot rod ou une voiture sport ou le train comme moyen de transport. Tout ce qu'il y a moyen de faire, c'est de se payer un shipping postal. Fait qu'il couche le gars dans un cercueil puis il remplit de packing foam, là, les deux foams qui se mélangent puis qui gonflent finalement, puis il met ça avec des teintes dessus puis il ship par la poste. C'est vraiment amusant, puis je suis convaincu que le reste du jeu a encore un paquet de jokes comme ça. Puis les interactions aussi entre les personnages sont très drôles, là, même quand c'est des interactions pas nécessaires, il y a des petits gags, des petits...
C'est beaucoup rehaussé aussi par la qualité du voice acting. Ouais.
Tu peux... il y a un old puncher, là, une troueuse à feuilles qui te sert à faire un truc dans un puzzle, mais tu peux aussi juste t'en servir. Puis le Manny bûche sur l'old puncher, puis t'as la secrétaire qui fait ah, ça fait du bien, il fait ouais. Bref, l'humour est écœurant. Moi, j'ai joué à la version remastered du jeu, comme j'ai dit, là, qui est sortie en janvier 2015 sur PS4, Vita, Windows, OS X, Linux, puis sur les plateformes mobiles iOS. J'allais dire morbide, ce qui était très drôle comme lapsus. iOS puis Android, voilà. Donc, il est sorti un peu sur tout. Ça faisait longtemps que Schaefer voulait reprendre le jeu, mais c'était difficile avec les nombreux changements chez LucasArts qui essayaient de rentrer en négociation, puis ils changeaient de président, whatever, qui faisait que ça, leur dossier recommençait tout le temps. Puis quand Disney a acheté LucasArts, ils ont décidé qu'ils voulaient vendre plein de licences finalement, là, qui n'allaient pas réutiliser plusieurs des IP, là, des intellectual property de la compagnie. Puis Schaefer a voulu l'acheter. Il a eu l'aide aussi financière de Sony, qui l'a échangé un peu contre l'exclusivité finalement du titre là, pour les consoles, j'imagine, parce qu'il est sur les autres plateformes, mais au niveau console, il est que sur Sony. Non,
je pense pas que Schaefer aurait accepté sinon.
Il était aussi gratuit le mois dernier sur PlayStation Plus.
Voilà. Donc, avec l'aide de Sony, ben, il a racheté l'IP.
Il a racheté aussi Full Throttle.
Ouais, aussi. Là, je pense qu'ils sont en train de travailler dessus.
Exact.
Donc, je vais attendre qu'ils sortent un remastered pour le rejouer aussi. À ce que j'ai compris, il n'y a pas vraiment de changement de fond. L'histoire, les puzzles n'ont pas l'air d'avoir changé du tout. Il n'y a pas l'air d'avoir rajouté non plus rien là-dessus. Les nouveautés, ben, comme je disais, des updates graphiques, mais pas si intenses. Là, des nouveautés au niveau de l'éclairage, des textures sur les personnages en trois dimensions, mais non, pas non plus à changer le look. Là, le squelette a encore l'air d'un cartoon. Il n'y a pas l'air d'un squelette hyper réaliste à cause de la nouveauté. Puis ce que j'ai lu, c'est que les backgrounds qui sont statiques n'ont pratiquement pas changé. Ce qui fait qu'il y a un petit côté vieux. En même temps, tu sais...
Ouais, ça fait un petit peu... c'est un peu comme Final Fantasy IX qui vient de ressortir là, sur iOS et ouais, tout ouais. Ça. Il y a vraiment un disconnect entre ce qui est en 3D et les backgrounds plus qu'à l'époque.
Sinon, au niveau graphique, puis c'est peut-être ma plus grande déception, ils ont conservé le ratio 4-3 là, qu'il y avait à l'époque. Mm. Fait qu'il y a des bandes de chaque côté. Là, ils peuvent être noirs ou ils peuvent avoir un genre de petit graphique dessus. Tu peux aussi le stretcher en 16-9, mais là, ça devient vraiment laid. Fais pas ça.
voyons donc, fais pas ça.
Fais pas ça.
Petit gars, là... J'ai des bandes noires.
C'est comme le monde qui ont sur leur TV. Le stretch là.
Habituellement, notre grand-mère.
Oui, aussi.
Shout out, grand-mère.
La mienne a encore une vieille CRT. Je pourrais utiliser pour du gaming.
Elle est rétro, ta grand-mère.
Moi, j'ai acheté une télé qui a de la
lourde. C'est quelque chose de plus rétro.
Sorte de grand-mère.
C'est quelque chose de plus rétro qu'une grand-mère.
Une arrière.
Oui, voilà.
Mais bref, tu finis rapidement par plus le voir le cadre. Moi, j'ai laissé le cadre avec les petits dessins. Là. C'est quand même cool, puis ça fit dans le style du jeu. Mais tu finis par plus le voir. Là. Tu rentres tellement dans le jeu que tu le vois plus, comme un film qui a des black bars. À un moment donné, tu les oublies si le film est intéressant. Sinon, comme autre changement au niveau de la, ben, la musique, on l'a dit tantôt, là, les versions orchestrales qui ont été mises à jour, mais le plus gros changement, c'est au niveau des contrôles. Les anciens contrôles, là, c'était ce qu'on appelait les tank controls, là, qui marchaient comme un tank. Là, fait que tu tournais sur toi-même, là, tu faisais des rotations sur toi-même de gauche à droite, puis tu t'avançais, tu reculais. Il n'y avait pas de mouvement combiné. Là.
Bref, Resident Evil.
Ben, bref, Resident Evil. Puis c'est ce que je disais, c'est que le team de dev avait fait ce choix-là parce que dans Resident Evil, c'était très apprécié comme contrôle, mais ça s'est vraiment mal traduit dans un jeu d'aventure. Là. C'est ce qui faisait que ça se contrôlait pas très bien. C'était pas très efficace comme contrôle. Donc, les nouveaux contrôles, point and click pour l'ordi. Tu peux juste cliquer avec les... La souris, ça te déplace super bien. Comme...
Juste ça me donne le goût de rejouer.
Juste ça, hein?
C'est à ce point-là, là, les Moody Tank Controls.
Sinon, moi, le jeu que, moi, la version que j'ai joué, comme je jouais sur Steam Link, je jouais avec le controller. Puis le controller, c'est vraiment un déplacement analogue. Là. Tu te déplaces avec le analog stick, puis tu te déplaces dans toutes les directions comme n'importe quel déplacement moderne. Donc, ça se va très bien. Surtout quand tu finis par te rendre compte qu'il y a un bouton pour courir. Parce que ça a été un peu long avant que je m'en rende compte. Puis Manny...
Tu serais déjà rendu au casino.
Manny, il est pas pressé. Hein? Il est mort. Fait que lui, il se déplace tranquillement. Il marche lentement. Regarde à gauche, regarde à droite.
C'est un de mes détails préférés de Grim Fandango.
Ben oui.
Tous les points d'interaction dans l'environnement, tu le vois, parce qu'on s'entend que ça se joue avec les tank controls, donc avec le clavier. Puis t'as pas comme la souris qui va t'highlighter un item que dans d'autres jeux d'aventure avant. Fait que c'est la tête de Manny qui regarde à quelque part, qui te dit qu'il y a un point d'interaction. Fait qu'il marche, plus, hein, il regarde à gauche. Il dit, ah, il y a de quoi là? Là, tu peux aller
tu voir.
Hein,
c'est hein? Cool.
Mais avec les contrôles analogues, ça va quand même très bien. C'est juste drôle un peu quand tu changes d'écran, parce que quand tu changes d'écran, si tu continues d'avancer, il continue d'avancer en ligne droite. T'sais. Il fait pas revirer de bord. Sauf que par réflexe, si je change d'écran, ben je vais rechanger mes contrôles. Puis là. Il faut juste que tu lâches complètement le contrôle avant de repartir, puis tu t'habitues rapidement. C'est juste
comme Devil May Cry,
c'est ouais, ça. Ben, c'est ça.
Ces jeux-là.
Bref, c'est juste, bon, quand tu changes d'écran, tu lâches tout, tu repars, puis c'est correct. C'est une petite adaptation, faut que tu y penses, mais c'est pas, comme c'est pas un jeu d'action, là, c'est pas la fin du monde. Je pense que c'est vraiment moins pénible que les Tank Control de départ. Mmh. Sinon, il y a aussi le Developer Commentary qui paraît qu'il est écœurant pour ceux qui ont déjà joué au jeu, qui le connaissent. Fait que quelqu'un comme toi, Mathieu, je pense que c'est pour être super le fun de le mettre à on.
Celui de Monkey Island 2 était très très bon, fait que j'en doute pas.
Puis ils ont mis des achievements aussi là, qui sont pas mal tous cachés, en fait, ce qui est une bonne affaire dans un jeu d'aventure, là, mais fait qu'ils doivent être intéressants aussi à trouver pour ceux qui aiment les achievements. Petite anecdote game design dans la série, pas facile de faire un port d'un vieux jeu. Ça m'a fait sourire, je dis d'en reparler un peu. Plusieurs fichiers critiques du jeu étaient difficiles à trouver parce qu'ils étaient sur des formats archaïques. Il y a bien des backups de jeux qui étaient faits, qui étaient sur des. Dans le fond, sur des DLT, là, des Digital Linear Tape, donc des rubans magnétiques, un genre de disque dur à rubans magnétiques. Là, c'était pas une cassette comme des années 80, mais c'était quand même.
Un backup tape, là.
Un backup tape. Puis ils ont quand même trouvé des gens qui en avaient, tu sais, chez Disney qui leur en ont. Shippé, mais Double Fine n'avait pas de lecteur de cassette mais de fichiers magnétiques. Ils ont fini par en trouver un. Là, il y avait un type, un développeur qui en avait un, puis ils ont réussi avec ça à aller chercher les fichiers audio. bref, avec son truc, mais c'est quand même. Et voilà, la désuétude des formats de fichiers. Semblerait aussi.
C'est tout un sujet pour une autre fois, justement, d'ailleurs, l'archivage numérique. Là, c'est. C'est weird quand on y pense. On n'est pas habitué à ça avec le papier parce que tu peux toujours regarder une feuille de papier. Ouais. Mais
semblerait aussi qu'à l'époque, la conservation du code source n'était pas aussi organisée que maintenant. T'sais, maintenant, ça se fait de façon très, très rigoureuse. Puis il y a beaucoup de fichiers qui n'étaient pas disponibles sur les anciens drives. Là. Mais ils se sont rendus compte que plein d'employés qui étaient partis avec des fichiers sans le vouloir, là, c'était pas du vol. Fait qu'ils ont pogné la liste de téléphone, puis ils ont téléphoné à tous les anciens. Schaefer a appelé à toute son ancienne team pour réussir à récupérer un paquet de fichiers comme ceux-là qui étaient sur des vieux drives ou des vieilles disquettes qui traînaient à quelque part.
Hey, ouais, salut, tu te rappelles-tu de moi? T'as-tu encore le fichier 008B2.cs?
Voilà. Il y a aussi qu'avec la résolution des textures de l'époque, il y avait aussi beaucoup de difficultés des fois à identifier les détails sur les costumes, sur les objets. Puis pour réussir à refaire les costumes avec les textures plus haute résolution de maintenant, il y avait comme pas le choix de retourner au concept art parce que les fichiers de jeu étaient juste trop laids pour qu'on reconnaisse les détails. T'sais. Fait que c'est quand même drôle de voir que même si c'est ton jeu à toi et tu veux le reporter nouveau, ben, il y a plein de trucs à faire en changement.
C'est clairement beaucoup de travail, là.
Ouais, ben plus qu'on pourrait penser de juste refaire un ancien jeu.
Mais surtout t'sais. Que, tu sais, à part les textures upgradées, que c'est quelque chose qui se hack ou qui se mod, la musique, même chose. Tu sais, il y a plein de moteurs pour jouer à ces vieux jeux-là. Il y a ScumVM, qui est un. C'est pas un émulateur parce que ça émule pas la machine, mais bon, c'est un logiciel qui te permet de jouer à. Non, c'est un émulateur, en fait, excusez-moi. Ouais. Qui te permet de jouer donc à tous les jeux montés sur le moteur SCUMM, qui est le moteur des jeux d'aventure de LucasArts. Fait
y avait... Avant celui-là, lui, il n'était pas sur SCUMM, lui.
Ok, c'est possible qu'il avait switché.
Il, lui, était pas. Il, bon. Il avait, j'oublie, c'est quoi, là? C'était une mise à jour, une adaptation d'un truc 3D là, de Star Wars qui avait utilisé le genre site, machin truc.
Moi, ouais, c'est possible parce que SCUMM, c'était en 2D, effectivement. Voilà. Mais bref, c'est ça. Fait qu'il y a, puis il y a plein de moteurs comme ça qui permettent de jouer à ces vieux jeux-là, puis qui upgrade la résolution, puis qui font un petit peu ce que le Remix HD a fait, mais permet pas de modifier les contrôles, évidemment, puis d'aller jusque-là.
Ouais, puis dans ce moment-là, il n'y avait pas le choix, là, parce que remettre les vieux contrôles, quand même, ça aurait juste.
Ouais, ça aurait limité beaucoup qui aurait joué à ça. Ouais, ça aurait juste intéressé les vieux joueurs.
On l'a vu avec Resident Evil Type Zero HD,
ouais.
qui est sorti là, récemment, qui est le remake du premier Resident Evil, puis qui a gardé les tank controls. Ouais, il paraît que c'est frustrant à jouer
mais
aujourd'hui.
Mais tu peux pas y moderniser les contrôles pour un jeu comme Resident Evil. Là. Qu'est-ce que tu ferais?
Ouais, mais je sais, c'est quand même un seul de contrôle qu'on n'est pas habitué d'avoir, puis qui répond plus aux normes modernes. Mm.
Bref, c'est un jeu à l'époque, là, la première version, qui a été extrêmement bien reçue par les critiques. 94% sur Metacritic, genre, c'est assez intense. La version remastered, 80% quand même. Probablement qu'il y a des petits trucs là, sur les textures et tout ça qui ont fait baisser un peu la note.
Mais il faut quand même faire attention, par contre, pour les vieux jeux, ouais. Les Metacritic, c'est que souvent, les critiques n'étaient pas publiées en ligne à ce moment-là. Fait que c'est souvent des gens qui vont faire des critiques rétro.
Mm-hmm.
Fait qu'ils vont aller parler d'un jeu qu'ils aiment et ils vont lui donner un super beau score. Donc, faire attention. C'est comme Ocarina of Time qui détruit tous les records. Oui, c'est un jeu qui était bien classé, mais il est encore mieux classé si tu regardes sur Internet plutôt qu'aux publications originales.
Mais même sans ça, quand tu regardes, les critiques l'avaient extrêmement bien reçu à l'époque. Mais au niveau des ventes, ça a été pas mal moyen. Considérant le coût de production, là, près de 3 millions pour développer la version originale en 98, ça aurait été quand même considéré comme un flop commercial. Puis c'est une des raisons pourquoi LucasArts aurait tiré la plug de ses jeux d'aventure après ça. Moi, de mon côté, j'ai eu énormément de plaisir, malgré que j'ai pas joué tant que ça. T'sais. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. J'ai découvert un jeu avec comme un humour qui me fait triper puis une musique écœurante. C'est certain que je vais le continuer. C'est pas le genre de jeu auquel j'ai envie de jouer après une grosse journée de job. T'sais. J'ai pas le goût après comme la grosse journée d'essayer de tomber dans quelque chose qui me fait réfléchir vu que je passe la journée à me servir dans ma tête. Là. Mais c'est certain qu'avec le congé qui s'en vient de mon côté, je vais rejouer. C'est sûr, j'aurai le goût de le terminer. Le côté humoristique... Même il y a des puzzles qui te demandent des fois de te casser la tête puis que tu gosses un bon bout de temps pour le trouver, mais il y a tout le temps des petits indices, des affaires qui permettent de trouver, ok, peut-être que je pourrais faire tel truc. Puis bref, ça demande une bonne concentration, mais en même temps, c'est pas frustrant comme certains jeux le sont. Puis c'est vraiment pas un point négatif, comme je dis, même si les puzzles sont pas tout le temps évidents, ils sont le fun, puis tu es content de le réussir quand tu l'as.
C'est ce qui est arrivé, par contre, avec le retour des jeux d'aventure qu'on connaît, c'est qu'ils ont comme abandonné les puzzles ou ils les ont gardés assez simples, à part Techno Babylon, puis cette lignée-là de genre de jeux d'aventure
qui sont un peu rétro. Ils
sont très purs, si on veut dire ça ainsi. Mais toute la vague des Telltale Games ont comme focusé sur le côté narratif, qui est le fun, mais ils ont abandonné le côté rewarding de faire des puzzles puis de mériter ton avancement. Dans le jeu.
De te casser un peu la tête, là.
Exact.
Bref, c'est ce qui fait que j'ai peut-être joué un peu moins intensément parce que j'avais besoin de relaxer cette semaine, fait que m'embarquer dans le jeu-là, mais c'est sûr que je rejoue, c'était vraiment, vraiment bon. Moi, de mon côté, j'ai pas vraiment vu de point négatif, là. T'sais, le remaster aurait pu être plus intense au niveau graphique, mais en même temps, j'étais un gars qui aime le rétro, tu sais, fait que ça me dérange pas que les textures sont belles, je veux dire que le background n'a pas été full upgradé ou tu sais, c'est pas quelque chose qui est dérangeant. Le trois quarts des jeux que je joue de toute façon sont en 8 ou en 16 bits, tu sais, fait que ça me dérange pas tant que ça. Fait que j'y vais avec un beau gros 4 pattes de divan pour ce jeu-là. J'ai adoré.
On est généreux ce soir.
On est généreux ce soir.
Good show.
Alors, et non, c'est pas Danny qui commence avec la conclusion. Je vous reviens en fait sur ma promesse de vous dire comment obtenir les paires de clés pour Clandestine.
Il y a des chanceux, alors, je peux même pas participer.
Et non, voilà, à cause de l'Auto-Québec.
Non,
c'est
vrai. Non, parce que j'ai pas Danny Bob.
Alors, on vous demande en fait, pour participer au concours, soit de nous suivre sur Twitter ou de liker la page de Divan Quest sur Facebook. Et à ce moment-là, soit de nous envoyer, si c'est sur Twitter, un DM, un direct message, à la page de Divan Quest, ou un message directement par Facebook, en nous disant, ça a été quoi notre mission préférée à moi puis à Jeff, quand on a joué à Clandestine? Évidemment, mettez-les pas en public directement sur la page, sinon tout le monde va voir participer, puis vous diminuez vos chances. Hein? Tu sais, voilà.
Fait que bonne chance. Donc, pour trouver nos derniers épisodes, divanquest.com... Sinon, pour du feedback, du hate mail ou pour participer au concours au Divan Quest ou twitter.com/divanquest sur Twitter, facebook.com/divanquest. Seulement pour le hate mail ou le feedback, divanquest@gmail.com. Le podcast est disponible aussi avec un paquet d'autres podcasts québécois sur le rzoweb.com, dans la playlist de Pod Québec aussi au podquebec.com, aussi sur iTunes, cliquez les 5 petites étoiles, faites comme Joe McPack 3 qui dit très bon podcast sur le gaming, autant actuel que rétro, je le conseille fortement, et comme Lomessi 42 qui dit très bon, merci. Et on se revoit dans 2 semaines.